Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, confinement J+5, 5 jours que je vous accueille désormais dans mon salon avec nos journalistes en duplex de chez eux. Dire qu'il y a pile une semaine, nous étions encore en public et, avouons-le, pas encore très au point, question distanciation sociale. Le temps de l'insouciance où on pensait encore que le coronavirus s'arrêterait à la frontière italienne comme le nuage de Tchernobyl. Et nous voilà aujourd'hui chacun chez nous, bien décidé néanmoins à vous offrir 2 heures de découverte rieuse, notamment grâce à ma précieuse complice. Que dis-je, ma complice, ma muse. Dali avait Amandalire, moi j'ai Eva Rock. C'est peut-être pour ça que je suis moins connue que Dali. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Eva, par amour pour votre métier, par fidélité, on peut le dire à Europe 1, vous avez fait le choix courageux de vous confiner directement dans le studio Coluche, où vous êtes donc seule.
Ah oui, je vous confie, je peux même vous faire une photo des micros avec les personnes derrière en fait, mais c'est pas très intéressant non plus. Mais derrière la vitre, heureusement, il y a Romain Causer qui est avec moi.
Heureusement, un homme est avec vous. Votre rôle, déjà important avant la pandémie, Eva, est devenu prépondérant, pour ne pas dire vital en quelques jours, puisque par vos conseils télé-écran, vous nous aidez à occuper ces longues journées de confinerie.
Et oui, alors pendant 2 jours, vous allez vous... Enfin, je pourrais plus vous en donner, hein, parce que ce sera le week-end. Il faut aussi qu'on se repose un petit peu. Mais évidemment, encore 4 choix aujourd'hui. 1 pour les petits, 1 pour les ados et 2 pour les grands. Vous allez voir, c'est sympa.
Voilà qui est complet. On a la muse qu'on mérite. J'ai donc Eva Rock, Dali et David Bowie ont eux eu Amandalire. Amanda, qui la dernière fois que je l'ai entendue à la télé, disait, je cite...
Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Ma vie sexuelle n'est qu'un souvenir.
Preuve qu'elle est vraiment une de nos plus grandes actrices. Elle est en ligne avec nous cet après-midi en duplex du Sud où elle habite. Bonjour Amandalire.
Bonjour.
Alors, déjà précisons Amanda que vous habitez le Sud à l'année. Vous ne faites pas partie de ces Parisiens qui ont lâchement fui la capitale pour venir en province.
J'ai compris il y a déjà pas mal de temps que Paris c'était fini. Hein, et donc j'ai émigré en Provence. Et vraiment, il faut bien le dire, c'est vrai que la Provence est un endroit privilégié puisqu'encore jusqu'à quelques jours, il n'y avait même pas de cas ici de coronavirus. Maintenant, ça y est, bon, ça commence. Mais je veux dire, on a été les tout derniers dans le sud de la France. Est-ce que c'est à cause du beau temps? Je ne sais pas. En tout cas, je suis en Provence et je ne le regrette pas.
Dites-moi, Amanda, oui. Est-ce que les gens respectent le confinement en Provence ou est-ce que,
alors,
justement,
ici,
avec les beaux jours, ils se promènent?
C'est pour ça.
D'accord.
Écoutez, ici, c'est extraordinaire parce que hier, je suis sorti parce que je devais voir mon ostéo. Vous savez, les vieilles choses, il faut les manipuler. Et donc, j'étais en ostéo. Et les rues étaient désertes, tout fermé. Vraiment, les gens ici respectent. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le seul moyen.
Ne sortons pas, sauf pour aller voir l'ostéo d'Amandalire. C'est le message qu'on peut passer sur Europe 1 cet après-midi. Amanda, on continue de discuter avec vous. Juste le temps de vous présenter nos 2 journalistes en compétition aujourd'hui. En duplex d'un salon haussmannien du Cossu, 17e arrondissement de Paris. D'une sublime bibliothèque où il a mis les Julien Gracq devant et les SAS derrière. L'homme aux 9T dans Télérama, Nicolas Caro, le spécialiste littérature d'Europe 1, est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Un jour, au détour d'une chronique, je vous ai avoué nourrir une certaine fascination pour l'histoire du masque de fer, Nicolas. Le lendemain, vous aviez écrit et publié un livre sur le masque de fer dont un exemplaire m'attendait sur mon bureau. Vous êtes vraiment exceptionnel, quasiment imbattable aujourd'hui.
Oui, non, c'est vrai que c'était un peu insultant. Vous me dites que vous êtes fasciné par le masque de fer et je vous apprends que j'ai écrit un livre dessus il y a 4 ans. C'est dommage, quoi.
Et donc, aujourd'hui, vous nous révélez l'identité finalement du masque de fer.
Oui, je vais vous faire une révélation. Enfin, presque.
J'en frémis d'avance d'excitation. Face à vous, virtuellement, puisqu'elle est évidemment chez elle, confinée comme nous tous, une chroniqueuse qui découvre, Eva, le gros avantage qu'il y a à faire sa chronique toute seule chez soi.
T'as plus de culotte.
Non, t'as plus de caméra, Eva. Ce qui fait que tu n'as plus besoin de te maquiller. Bonjour, Farah Kastri.
Bonjour, plus de soutien-gorge, plus rien, on peut y aller.
Vous nous enverrez des petites photos. Vous êtes notre vétérinaire préféré. On peut vous retrouver d'ailleurs dans le magazine de la santé sur France 5. Et aujourd'hui, en ces temps troubles où les hommes ont tendance à se flatter de leur sens de l'empathie et de l'entraide, vous tenez à rappeler quelque chose d'important qu'on sait peu. Les animaux aussi sont capables de s'épauler.
Absolument, les animaux sont capables de coopérer. Ils ont compris qu'il valait mieux s'entraider. C'est plus efficace que de se battre ou de penser qu'à soi. En fait, c'est le meilleur moyen de survivre.
Merci Farah pour cette leçon. Le programme est donné, l'équipe est sauvage from chez Bibi. C'est reparti.
L'équipe est sauvage.
Chaque jour, nous prenons, vous le savez, des nouvelles d'une star pour voir comment elle vit son confinement. Aujourd'hui, c'est donc avec un immense plaisir qu'on retrouve en direct de chez elle, en Provence, la divine, l'irremplaçable Amanda Lear. Amanda, vous présenter serait une véritable insulte, hein. Mannequin, chanteuse, actrice, animatrice de télévision, artiste, peintre, muse de Dali. Incroyable. Vous avez eu 1000 vies, mais alors là, par la force des choses, en voilà une 1001e. Le confinement. Comment vous vivez cette période?
C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau pour moi, je t'assure. J'ai toujours aimé la solitude. Je le dis dans toute interview. Moi, j'adore être seul. On est beaucoup mieux seul que mal accompagné, franchement. Et donc, ça me dérange pas du tout, moi, d'être confiné, que ça dure 15 jours, 20 jours, 40 jours, je m'en fous. Je suis très bien toute seule. Je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Je regarde la télé que je veux. Écoutez, je suis tellement bien chez moi. Je peins. Vous savez que je fais de la peinture, moi. Bon, je peignais beaucoup de nus, des hommes nus. Enfin, maintenant, de mémoire, non, mais bon. Des hommes nus. Papa de mémoire. Et puis des fleurs. Quand on n'a pas de modèle. Enfin bon, la mémoire me joue pas des tours, j'ai tendance un petit peu à idéaliser tout ça, vous savez, avec la mémoire.
Amanda, vous avez l'air très guirette, mais en 2012, vous confiez à un compatriote à moi, Darius Rochebain, un Suisse, être d'une nature angoissée. Vous disiez, j'ai peur de la vieillesse, de la maladie, de la solitude, du terrorisme et même de vous, disiez-vous à ce pauvre Darius. Aujourd'hui, vous êtes sereine malgré tout face au virus. On comprend que le confinement ne vous gêne pas, vous aimez la solitude, mais face à ce virus qu'on connaît qui fait beaucoup de morts.
On ne peut pas être serein face à une épidémie mondiale, c'est évident, avec tous les morts. J'ai plein d'amis, sans doute, que je vais dire qu'ils vont disparaître, que je ne vois plus. Non, on ne peut pas être serein, c'est très angoissant. Mais si en plus on en rajoute en branchant la télé toutes les 5 minutes, on est anxiogène au maximum, vous voyez, parce qu'on n'a que des mauvaises nouvelles, on ne vous donne que des chiffres. Donc il faut plutôt voir le côté positif et se dire que dans quelques semaines, comme en Chine, eh ben, ça disparaîtra chez nous aussi. Enfin, pour le moment, on est en plein dedans. Et puis voilà. Alors j'ai fait comme tout le monde des stocks, j'ai été au marché, j'ai acheté des pâtes, des nouilles, du papier cul, de l'huile, etc. Et du fond de teint pour me tenir un mois. Voilà.
Amanda, de l'huile, vous n'avez pas besoin d'en acheter puisque vous en produisez, paraît-il.
J'en fabrique, oui, je fais de l'huile d'olive. Oui, vous savez, je suis oléicultrice. Oui, je regarde mes olives, oui. J'avais comme voisin Charles Aznavour qui lui aussi récoltait ses olives. Alors, vous savez, on se papotait tous les deux. Et toi, c'est laquelle? C'est la picholine et moi, c'est celle-là. Enfin, voilà. On comparait nos olives.
Il a bien changé le showbiz, hein. Une après-midi en Provence sous les oliviers avec Amanda Lear, vous en rêviez, l'équipée sauvage l'a fait. Amanda reste avec nous.
Europe 1.
Pas de service minimum pour les journalistes d'Europe 1 qui continuent de défiler au micro chaque après-midi pour vous livrer conseils, infos ou belles histoires pour mieux vivre le confinement. Eva, vous avez tendance à être un peu dur avec nos chroniqueurs. N'oubliez pas qu'ils sont eux aussi, si vous êtes dur, n'oubliez pas qu'ils sont eux aussi bloqués chez eux. Donc merci d'essayer au moins de simuler l'enthousiasme quand ils vous vendent un truc qui à l'évidence ne vous emballe pas comme Jean-Philippe Ballas hier.
Karen Anne, elle vous donne rendez-vous tous les soirs maintenant, c'est acté à 22h, vous allez sur son compte Instagram, elle vous fait une vingtaine de minutes de mini-concert.
Génial. Oh mais
essayez de simuler un peu mieux que ça, Eva,
mais
s'il vous plaît.
Je trouve ça bien.
Et si je vous dis, qu'aujourd'hui Nicolas Caro va nous révéler qui se cachait vraiment sous le masque de fer, là vous me dites, on a répété.
Génial.
Bon, pardon, génial, on a hâte. Et puis moi je vous dis, patience, Eva, patience, les secrets du masque de fer vous seront dévoilés juste après Shed, trampoline sur Europe 1.
I never learned to slow down.
As I'm looking up,
as I'm looking up,
suddenly the sky erupts,
sky erupts, flames alight the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me.
When if I'm on fire, how am I so deep in love? When I dream of dying, I never feel so loved.
I've been having dreams, splashing in a summer stream,
tripping, I fall in. I wanted it to happen.
My body turns to ice,
my body turns to ice,
crushing with a
solid black or gold, lying in the cold. I feel right.
just float there.
When if I'm on fire, how am I so deep in love? When I dream of dying, I never feel so.
Qu'il est bon de faire du trampoline. C'était Shed sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Dans un monde où désormais on se salue du coude, est-ce vraiment une bonne idée de se les serrer? Je ne sais pas, mais disons que dans l'équipe est sauvage avec Eva Rock, on fait front. Oui Eva, désormais...
Et
aussi
oui.
Nos fidèles chroniqueurs, toujours là pour vous informer et vous divertir. À l'heure d'écouter notre première compétitrice du jour, je tiens à saluer l'abnégation de Farah Kestri, notre veto adoré. Farah qui a tenu à être avec nous aujourd'hui malgré la peine qui la ronge. En effet, le confinement a mis fin à son idylle naissante avec notre expert scientifique Alain Siroux. Elle est inconsolable.
Tes yeux bleus me manquent, je peux plus le voir.
Alors Farah, pour oublier un peu Alain Siroux, je vous propose de nous parler aujourd'hui des animaux que vous connaissez si bien. On parle souvent de la loi de la jungle pour les animaux, comme si les animaux étaient à la fois anarchiques et individualistes, sans conscience de l'autre. On se trompe grandement.
Ah oui, absolument. Au contraire, les animaux ont beaucoup plus conscience de l'autre que certains humains que je connais. Donc là, ça c'est sûr. En tout cas, les recherches sur les capacités des animaux à coopérer ne datent pas d'hier, hein, puisqu'on peut même voir une vidéo qui date de 1937. Donc c'est bien l'époque du cinéma muet, où dans cette vidéo, on peut voir deux chimpanzés en cage tirant chacun à travers les barreaux sur une corde qui est reliée à une caisse contenant de la nourriture. En fait, pour que la caisse remplie de fruits parvienne aux deux chimpanzés, il faut que chaque chimpanzé tire sur la corde qui est de son côté. Ils doivent le faire en même temps, sinon ça ne marche pas.
Et est-ce que donc il n'y a que les chimpanzés qui sont capables de telles prouesses?
Alors en fait, bien sûr, il n'y a pas que les chimpanzés. Hein. En fait, dans la vidéo, on peut très bien voir ces deux chimpanzés qui tirent en même temps et qu'ils ont bien au départ essayé de ne pas tirer chacun de son côté. Et ils finissent par comprendre qu'il faut coopérer. Et les éléphants, en fait, il y a une autre expérience avec des éléphants qui a été réalisée plus récemment par le docteur Plotnik, un chercheur en neurosciences et en éthologie à l'université de Cambridge. Eh bien, les éléphants, en fait, ils devaient aussi tirer sur une corde, mais cette fois, bien sûr, avec leur trompe. Hein. Je vous rappelle que la trompe des éléphants, c'est assez puissant, puisqu'il y a une centaine de muscles. Et donc, ils pouvaient tirer sur la corde pour attirer une planche qui était sur le sol. Et sur cette planche, il y avait plusieurs fruits et tout. Et donc, les deux éléphants étaient parfaitement capables de s'observer et de synchroniser leurs actes pour agir ensemble et pour s'entraider. Et ça, c'est vraiment, on retrouve ça même chez des dauphins et tout.
Mais ça, c'est juste qu'ils sont malins, parce qu'il y a une récompense au bout. Est-ce qu'il y a vraiment de l'altruisme chez les animaux? C'est-à-dire aider son prochain sans rien attendre en retour.
Vous connaissez le mot altruisme, Mathieu Noël?
Confinement ou pas.
Oh là là. Oh la violence.
En fait, moi, je crois pas vraiment que l'altruisme existe vraiment. On attend toujours quelque chose. Hein. On attend une forme de reconnaissance.
Chez les humains aussi, vous voulez dire.
Ah oui, voilà. Mais bon, chez les animaux, en tout cas, la réponse est ni oui ni non, car apparemment, il faut quand même qu'il y ait un certain lien de parenté ou être des super bons copains. Par exemple, chez les chimpanzés, ils continuent à s'entraider, à tirer sur la corde, même quand l'un d'entre eux a déjà mangé. C'est-à-dire que s'il a déjà mangé, donc il est un peu moins motivé pour tirer sur la corde.
Il continue d'aider.
Et voilà, ils continuent d'aider. Mais là, en fait, on se rend compte qu'ils le font quand même. Ils le font parfaitement. Et il y a même une expérience qui a été publiée récemment sur... et cette fois-ci, ce n'est pas des chimpanzés, donc ce n'est pas des singes, c'est carrément des oiseaux. Donc vraiment un autre groupe d'espèces animales. Et c'est des perroquets gris d'Afrique. Et c'est un article qui a été publié en janvier dernier par Irène Pepperberg, qui est pour moi la grande prêtresse sur le langage des perroquets gris. Et elle les a entraînés à échanger des graines contre des pièces. Alors il faut imaginer, ce sont des anneaux avec des anneaux en métal, et ils pouvaient attraper donc ces anneaux en métal avec leur petit bec. Le premier perroquet devait donner à son copain donc cette fameuse pièce avec son bec, et son copain donnait la pièce à la scientifique qui, elle, en retour, lui donner une graine. Mais autrement dit, ça veut dire que celui qui donnait la pièce à son copain, lui, il recevait rien. Et malgré ça, l'expérience a été répétée plusieurs fois, et malgré ça, le premier perroquet continuait à donner à son copain des pièces alors que lui ne recevait rien, tout simplement pour que son copain puisse être nourri. En fait, quand ils ont refait cette expérience avec des perroquets qui ne se connaissaient pas, eh bien ça ne marchait pas du tout.
Ah oui, comme quoi, hein. L'amitié existe entre les animaux.
Pour s'entraider, il vaut mieux être dans le même bateau. Là, vraiment, c'est à méditer en ce moment.
Hein. Oui, exactement.
Serons-nous aussi altruistes que les perroquets? C'est la grande question que nous lançons cet après-midi sur Europe 1. Merci beaucoup, Farah Kastri. On vous fera passer des nouvelles d'Alain Sirou. Hein. D'ailleurs, au passage, et tout à fait entre nous, évidemment, qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui? Ses yeux bleus?
Il y a autre chose qui est assez exceptionnelle. C'est sa langue, puisqu'elle mesure jusqu'à 55 centimètres.
Oui. Non, c'est bon. Merci, Farah Kastri. Merci beaucoup. À bientôt. À suivre
Mathieu,
chaque jour. Vous le savez. Oh, il faut bien s'amuser, se divertir.
Oui.
Et ben, le temps est long. Hein.
Bien sûr.
À suivre chaque jour. Vous le savez désormais. Faute de pouvoir les accueillir en chair et en os, on se débrouille pour avoir les plus grandes stars au téléphone. Aujourd'hui, sa vie est un roman. Elle a vécu avec Salvador Dali. Elle a eu David Bowie entre ses bras. Mais elle n'avait encore jamais eu Bibi au téléphone. La boucle sera bouclée pour Amanda Lear à l'issue de l'interview qui vous attend après la pub. Au programme, questionnement philosophique.
Est-ce que je suis vraiment 100% hétéro ou est-ce que je serais pas un petit peu lesbienne sur les bords?
Conseil à Eva Rock.
Il ne faut jamais plus se droguer.
Sans oublier, analyse de l'affaire Griveaux.
Il a montré sa zigounette au monde entier.
On ne devrait pas pleurer. À tout de suite, les amis. L'équipée sauvage spéciale confinement revient dans 30 petites secondes sur Europe 1. Alors 30 secondes, c'est à la fois très long et très court. Très court pour vous qui nous écoutez. Très long pour Romain, notre réalisateur, seul en studio avec Eva Rock, qui après 5 jours de confinement est grave en manque de contact humain.
Putain, j'ai vu la mort. Viens vite me faire un mot.
Rominou, courage Romain.
h 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Réduction immédiate de la pollution, creusement sans limite des déficits pour soutenir les ménages en difficulté, nationalisation potentielle des entreprises en difficulté. Alors que le coronavirus est en train de réussir là où Arlette Laguillet, Olivier Besancenot et Philippe Poutou ont échoué, l'équipe est sauvage continue sa croisade contre la morosité et continue de prendre des nouvelles des stars. Évidemment, différemment, par téléphone, il nous paraît loin, le temps béni où après une dégustation de Chablis, on finissait l'émission sous les vivas d'un public hilar et que Cadmerade chantait...
Décalé Qatar, décalé Qatar.
Aujourd'hui, plus question d'échanger des gouttelettes. Hey, c'est au téléphone que nous sommes avec Amanda Lear, par sécurité. Amanda, est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux en cette période de confinement, en temps normal particulièrement en ce moment?
Ben oui, comme tout le monde, évidemment. Comme je reçois beaucoup plus de messages qu'avant, et puis j'ai des tas d'amis qui prenaient pas de mes nouvelles depuis des mois et des années, brusquement s'intéressent à moi. Et toi, ça va? Ils ont lu quelque part que les vieilles personnes étaient fragiles, donc ils disent ça va, c'est sûr. Et donc ils prennent de mes nouvelles. Donc c'est vrai. Puis en plus, je reçois plein de vidéos marrantes. Je suppose vous aussi des vidéos marrantes, des trucs pour essayer de vous remonter le moral. Et il y en a qui sont très rigolotes d'ailleurs. Et très coquine, et voilà, je suis sur les réseaux sociaux. Moi je tweete pas, mais je suis sur Instagram, oui, je mets des photos.
Et puis vous n'êtes pas vraiment seule, Amanda, si j'ai bien compris, parce que vous avez beaucoup de chats autour de vous, beaucoup d'animaux.
Ah oui, alors justement, on parlait tout à l'heure là, des animaux, vous savez, c'est vrai que les animaux, moi, ils ne m'ont jamais déçu, j'ai toujours eu plein d'animaux autour de moi, et là, je veux dire, mes chats, vous savez, les chats se sentent, l'année dernière, j'étais un peu fatiguée, et en fait, j'étais malade, et les chats sentent cette ça, votre état de santé. Ils se collent à vous en ronronnant, ils essayent de je sais pas, de vous enlever la fièvre. Je dois tout à ma chatte, c'est vrai. Non, pas.
J'attendais une chute, Amanda, et elle est arrivée.
Oui, c'est ça.
Absolument magnifique. Amanda, sur les réseaux sociaux, vous dites « Je ne comprends pas l'obsession qu'ont toutes ces petites starlettes à afficher tous les jours sur les réseaux sociaux. Elles ont peur de quoi? Qu'on les oublie? En réalité, elles fatiguent tout le monde.
Oui,
on ne s'impose
vrai,
que par le travail. »
Photoshopées, elles se font une petite taille de guêpe, elles se retouchent, elles sont là. Elles n'existent que parce qu'elles sont sur Instagram. À un tel point, vous savez, que mon agent me disait, Amanda, c'est terrible. Maintenant, quand on fait le casting, par exemple, d'un nouveau film, on regarde pas combien de films vous avez tourné ou combien de pièces vous avez joué. On regarde combien vous avez de followers sur Instagram. Voilà, on dit, celle-là, elle a 1 million de followers, ça nous fera 1 million d'entrées. N'est pas vrai, évidemment.
Ce n'est pas vrai du tout.
Voilà. Mais voilà, on en est à ce point de regarder Instagram. Alors, si vous n'êtes pas sur Instagram, oh là là, ou alors t'as que 15 followers, mon Dieu, ma pauvre chérie. Alors, il y en a qui en achètent. Moi, j'ai tendance à mettre plutôt des vieilles photos, pour pas mettre des photos récentes.
Bon, là, justement, dans les années 70, vous dites que c'est finalement Dali qui vous a appris le marketing, à savoir vous vendre.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il vous aurait pas incité à utiliser les réseaux sociaux, finalement, parce que c'est quand même le monde actuel. Il aurait certainement été brillant là-dessus aussi.
Dali, ça aurait été le premier. Ah ben oui, il était archi branché, communication, marketing, fait de la pub, se filmer soi-même, 24 heures sur 24. Ah oui, c'était le Kim Kardashian bien avant l'époque.
J'espère qu'il ne nous entend pas de là où il est.
Oui, c'est ça. Il se serait filmé du matin au soir en train de peindre, de faire des conneries. Non, c'est vrai qu'il était très, très branché. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on est dans une ère, alors il y a du bien, c'est vrai, parce qu'on est beaucoup plus en contact les uns avec les autres, et puis il y en a, c'est insupportable parce que n'importe quel imbécile vous insulte, dit des conneries, publie des fake news totales, et ça c'est un peu déplorable dans les réseaux sociaux, il faudrait pouvoir un petit peu contrôler tout ça, mais sinon c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, eh bien on est en contact, c'est bien, il y en a même qui vont très loin dans le contact, hein. Ils m'envoient des photos et que je n'en ai pas demandé, non, vous assurez, ça on est dans le contact.
Amanda, pour terminer, un mot de politique, est-ce que vous trouvez qu'on est bien dirigé en ce moment, que nos dirigeants font ce qu'il faut face à cette crise qui nous tombe dessus et au niveau mondial d'ailleurs. Est-ce que si vous deviez inviter quelqu'un chez vous en cette période de confinement, on n'a pas le droit, mais une seule personne qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment, Olivier Véran, Jérôme Salomon, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, qui est-ce que vous préférez dans cette équipe?
Celui qu'on voit le plus en ce moment, c'est Michel Simès, hein, j'en ai jamais vu autant. mais à inviter quelqu'un, j'inviterai pas le ministre de la Culture parce qu'il est contaminé, là.
Oui, bon, c'est vrai.
Le ministre de la Santé, parce que je trouve qu'il fait bien son boulot, oui, il communique bien, il nous affole pas inutilement, j'ai l'impression qu'il nous dit plutôt la vérité, parce qu'on a toujours tendance à croire qu'on nous cache, tout, on nous dit rien, on nous sait pas. Alors celui-là, bon, plutôt, il nous dit, écoutez, la situation, elle est comme ça, elle est pas rose, mais c'est bien. Non, c'est bien. Je me suis dit, je vois pourquoi je dois inviter un politicien chez moi, je suis très bien.
Vous êtes très bien toute seule. Amanda Lear, vraiment, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en ligne de chez vous dans le sud de la France. Vraiment, vous faites des gros bisous virtuels, évidemment. Ne prenons pas de risques.
Moi aussi, mon petit Mathieu, je vous fais plein de gros bisous virtuels. Europe 1.
Est-ce une conséquence de la chronique d'Anne Le Gall mardi, une envie soudaine et incontrôlable de confectionner des rondes serviettes, des abat-jours et des lustres en rouleaux de PQ, ou la simple peur de manquer? Édouard Philippe nous le rappelle chaque soir à la télé, cessons de nous précipiter sur le papier toilette. Il est regrettable de voir des gens pourtant raisonnables comme Nicolas Carreau mettre un coup de boule à une vieille au Franprix parce qu'elle avait osé toucher à son pack de Molton.
Alors voilà, faites attention, c'est ma collection personnelle.
Pour se calmer et vous divertir, Nicolas Carreau nous parle d'une histoire qu'il connaît bien, il a même écrit un livre dessus. On va enfin savoir qui était vraiment l'homme au masque de fer, juste après Renaud, dans Moi HLM sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. La montre du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a John Cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM et l'amour du huitième. Le HLM, au deuxième, dans mon HLM, y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y en a un qui est chômeur, y en a un qui est instite, y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y a des matelas par terre, les voisins sont furax, ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y a l'espèce de connasse. Celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Borias, le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier, quand elle sort son coquère, au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant. Parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du huitième, le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y a celui que les voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, et c'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, HLM, la monde du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubar et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut au huitième. Construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM.
HLM, c'était Renault sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, confinée certes, mais toujours motivée. 2 heures hybride à la frontière du journalisme et du rire, enregistré depuis mon salon avec pour toile de fond une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, dont certains bénéficiant de c'est trop pourquoi d'une image extrêmement flatteuse, voire chic. C'est par exemple le cas de Nicolas Caro, notre expert littérature. Peut-être est-ce d'ailleurs parce qu'il nous parle de grands écrivains qu'on s'imagine qu'il est lui-même un être d'un raffinement exquis. Alors, on est en confinement, hein, on se dit tout. En vrai, Nicolas Caro est comme tous les journalistes. Hein, la preuve, au moment de tester son micro, vous savez, avant l'antenne, il cite pas Proust, hein, ni Mallarmé, ni Baudelaire, hein, loin de là.
Je sature dans mon casque, mais c'est que mon casque. Petit essai, les amis.
Pute, bonjour Nicolas Caro.
Quel odieux montage, bonjour.
Vous avez une grande spécialité, Nicolas, que j'ai découvert un jour au hasard d'une chronique. Vous avez écrit un livre sur l'homme au masque de fer, qui est une des affaires qui me passionne le plus dans l'histoire de France. Et donc, en tant que spécialiste, vous allez aujourd'hui nous raconter ce que vous savez de cette folle histoire.
Et comme vous l'avez lu, je vous laisse nous raconter.
Je suis en train, Nicolas. Je vous demanderai de le résumer, s'il vous plaît.
Alors, ce qu'on sait, en tout cas, c'est sûr et certain, il y a effectivement eu, dans les prisons du royaume au XVIIe siècle, un prisonnier masqué. On le sait grâce aux archives. On peut, par exemple, consulter le registre d'écrous de la Bastille, qui était tenu par un certain Étienne Dujonca, qui était le haut fonctionnaire qui s'occupait des questions administratives là-bas. Et il notait scrupuleusement toutes les entrées, toutes les sorties de ces prisonniers. Il existe toujours ce registre et on peut y lire à la date du 18 septembre 1698. Je l'ai vu, je l'ai consulté ce registre. Aujourd'hui est arrivé Monsieur de Saint-Mars et son prisonnier masqué dont le nom ne se dit pas.
Oh, alors c'est qui ce Saint-Mars ?
Alors Saint-Mars, c'est l'homme qui a veillé, qui a gardé le prisonnier pendant ses 34 ans de captivité jusqu'à sa mort en 1703 à la Bastille. On peut lire encore dans le registre que le prisonnier masqué est mort à la date du 19 novembre 1703 donc.
Mais il était où ce prisonnier avant d'être enfermé à la Bastille ?
Alors d'abord il était à Pignerol dans les Alpes italiennes, ensuite il est parti à Exil, une autre forteresse pas très loin, et puis il a été enfermé sur l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. D'ailleurs on peut toujours visiter sa cellule aujourd'hui avant donc de partir à la Bastille.
Mais alors, on sait qui c'était et pourquoi il portait un masque ?
Alors, bonne question. Après 300 ans d'enquête d'historien, on n'y a toujours pas répondu avec certitude, mais ça avance. Et il y a 52 théories sur le sujet, des très très bêtes et des très très pertinentes.
Alors, la théorie du jumeau du roi, est-ce que ça colle ?
Alors ça, c'est une bonne idée, puisque ça explique tout. On lui met un masque parce qu'il est un des seuls visages reconnaissables à l'époque. Et surtout, on l'emprisonne et on le met au secret pour éviter une crise politique grave. Qui est appelé à régner ? C'est le premier sorti des jumeaux ? Oui, mais à l'époque, les médecins pensent que le premier sorti, c'est le deuxième conçu.
Oh là là.
Donc, on ne peut pas le tuer non plus, puisqu'on ne touche pas au sang royal. C'est vrai en plus ça. Ah oui. Et donc, on lui met un masque. C'est surtout très romanesque, puisque cette idée est magnifique. C'est pour ça que Dumas l'a reprise dans Les Trois Mousquetaires. C'est pour ça aussi que c'est la thèse la plus connue. Mais ça ne colle pas du tout, en fait, pour plein de raisons. Mais entre autres, la reine accouche en public. Si on avait eu deux, on l'aurait su immédiatement. Ouais. Mais il y a Marcel Pagnol qui a écrit un bouquin pour défendre cette hypothèse dans les années 60.
Il y croyait. Alors, c'est alors ce masque de fer ?
Alors, la thèse la plus crédible a été avancée par l'historien Jean-Christian Petit-Fils il y a une quinzaine d'années. C'est celle qui s'appuie le mieux sur les documents, sur les archives, et elle est très intelligente, mais assez complexe. C'est parti.
Comme vous.
Monsieur de Saint-Mars, donc, était le gardien de l'homme au masque depuis la prison de Pignerol. Il avait été nommé là pour garder Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, qui était condamné pour malversation, qui était une vraie célébrité à l'époque. Il était aussi puissant que Louis XIV. À Pignerol, il y a aussi Lauzun, un autre people de l'époque, et puis une dizaine d'autres prisonniers, dont un certain Eustache d'Angers, un type lambda enfermé là, on ne sait pas trop pourquoi exactement. Il connaissait sans doute un secret diplomatique, mais pas très très important. Je vous la fais courte. Fouquet meurt au bout d'une dizaine d'années. Lauzun est libéré. Saint-Mars n'a plus de prisonniers prestigieux sous sa garde. On ne parle plus de lui à la cour. Donc il croupit dans sa prison humide avec ses prisonniers dont tout le monde se fout. Et c'est à ce moment-là qu'il est muté à Exil, une prison encore plus triste. Il emmène deux prisonniers, Eustache d'Angers et un autre. Il reste 7 ans à Exil et il est muté à Cannes. Et là, il n'a plus qu'un prisonnier. C'est Eustache d'Angers, et c'est là qu'il commence à mettre un masque sur le visage de son prisonnier pour que, quand les gens le croisent sur la route entre Exil et Cannes, ils se disent « c'est fou, Saint-Mars, il a un prisonnier tellement important, tellement célèbre, qu'il est obligé de lui faire porter un masque d'acier, et ça marche, un journal relaie l'information, et la légende est née, on en parle encore aujourd'hui, c'est un coup médiatique, une sorte de buzz du XVIIe siècle, conçu par un type qui voulait pas qu'on l'oublie, Saint-Mars, le masque de fer, c'est Eustache Danger, et personne ne le connaissait avant qu'on essaye de le cacher.
C'est génial.
Cette hypothèse semble effectivement elle est complexe, mais c'est la plus récente.
Elle est très très détaillée, cette hypothèse.
Elle est passionnante, et on peut renvoyer à votre livre qui est passionnant, où vraiment vous aurez tous les détails sur cette mystérieuse et fabuleuse affaire du masque de fer. Merci beaucoup Nicolas Caro, et pas tant de chroniques, simplement pour optimiser vos chances auprès des auditeurs qui seraient tombés sur nous par hasard en provenance d'RMC, un petit mot moins littéraire.
Nichon.
Merci.
Europe 1.
Et oui, ça va
le choc
tous
des cultures entre
ma
le masque de fer et Nichon, quoi. Franchement.
Ma chère Eva, loin de moi l'envie de vous tirer des larmes, Eva. Mais j'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on se souvienne de ces jours heureux. Quand nous étions encore tous ensemble réunis dans la rédaction d'Europe 1. Vous vous souvenez?
Ça sentait la beuh de partout.
Oui, non, mais je me souviens de ça. Je me souviens. Mais je me souviens surtout du délicieux quiz qui vous opposait chaque jour à l'invité. À chaque fois, vous aviez envie d'y croire et à chaque fois, vous finissiez en bougonnant.
C'est une injustice de la vie encore.
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. On se retrouve dans un instant avec un florilège de vos plus belles perles. A tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. Alors que la France affronte une crise sanitaire exceptionnelle, Europe 1, plus que jamais, se mobilise pour vous accompagner, vous informer, vous divertir aussi. 7 jours sur 7, tous nos animateurs et journalistes bousculent leur programme. Pour vous offrir, grâce à un dispositif technique exceptionnel, une radio ouverte à toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos réactions. Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte. Et pour nous joindre, un seul numéro, 3921. 50 centimes la minute. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur.
Europe 1, écoutez le monde se mobiliser.
Heures, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, votre bouée de bonne humeur dans cet océan d'anxiété qui est le nôtre en ce moment. Et pour alléger un peu le lourd fardeau de nos angoisses, je vous propose chaque jour vers 5h moins le quart de vous en payer une bonne tranche avec les meilleurs moments du quiz qui chaque jour en temps de paix opposait Eva Rock à notre invité. Parmi vous, j'entends certaines voix s'élever pour dénoncer une forme de sadisme à l'encontre de ma très chère muse. Point du tout, les amis, je vais être franc avec vous. S'il existait des moments où je m'étais moi-même rendu ridicule par une réponse idiote à une question ou une vanne tellement nulle que même l'Alvana Vermo n'aurait retoqué, je vous la diffuserais à la place du quiz. Évidemment, hélas, ça n'est jamais arrivé. Ah, attendez. Ah si, on me signale que oui, c'est arrivé.
Par exemple, aujourd'hui, et c'est à revoir sur le site d'Arte, on peut découvrir les habitants de l'île de Coron, c'est aux Philippines.
C'est au nord, non, plutôt. Oui, ok, sauf que c'est moi qui décide dans cette émission.
Ouais,
donc, unilatéralement, j'ai décidé qu'on va quand même écouter les meilleurs moments du quiz d'Eva Rock contre l'invité. Vous êtes prête, Eva?
Oui.
Eric Orsena, n'est pas tous les jours que nous recevons dans l'émission un membre de l'Académie française. Par contre, c'est tous les jours qu'à mes côtés, nous avons la présence d'une personne qui a déclaré avoir fait plus d'études que Simone de Beauvoir. C'est pourquoi nous allons à présent faire un duel sur la langue française. Eva Rock, oui. Que désigne l'adjectif nullipare?
Nullipare?
1. Une femme qui n'a jamais accouché. 2. Une action qui n'a jamais existé, ni même été pensée. Ou 3. Une personne qui s'est mise nue, mais pas assez longtemps pour qu'on puisse se rincer l'œil.
Est-ce que vous avez le droit de vous donner la réponse?
Non, vous devez choisir parmi ces trois propositions.
De m'épeler le mot, ou pas?
N-U-L-L-I-P-A-R-E. Nullipare.
J'aurais dit la 2.
Vous auriez dit une action qui n'a jamais existé. Pas du tout. C'est une femme qui n'a jamais accouché, ou en zoologie, une femelle qui n'a pas encore porté. Vous coucherez moins bête.
Ce qui est un mot absolument scandaleux.
Scandaleux, oui, qui devrait être banni.
Mais attends, il va être... Et alors, le problème, c'est qu'on est un peu lent à l'Académie, puisqu'on est à la lettre V. Donc, le temps qu'on revienne à N,
même
en dépit de mon immortalité, il y aura au moins 5 personnes qui se sont succédées sur mon fauteuil. Mais dès maintenant, je vais faire une... Voilà, parce que il y a les gilets jaunes et il y aura les habits verts qui vont prendre... Vraiment, c'est une honte, nullipare. Mais ça veut dire que si on n'a pas, fait d'enfant, enfin, fabriqué d'enfant, on est nul.
Ouais.
Et non avenu. C'est des mots, il y a des mots qui sont terribles, parce qu'il y a des mots qui vous assignent à résidence, vous condamnent pour toujours.
Bah heureusement, ce mot-là...
C'est une horreur.
Nullipare, on ne l'entend pas souvent.
Mais j'ai droit à un point.
Mais vous n'avez droit à rien du tout.
Non, zéro point.
Eric Orsena.
Oui.
Qu'est-ce qu'une fontaine ubérale? 1. Une fontaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. 2. Une fontaine à laquelle on ne peut boire que si on a un compte Uber. Ou 3. Une fontaine où l'eau coule des seins de sculptures féminines.
Alors là, franchement...
Ah, je vous colle!
Mais j'aimerais que vous me la présentiez, surtout, cette fontaine.
Enfin, donc vous avez quelque part donné la réponse. Puisque c'est une fontaine dont les sculptures féminines voient de l'eau jaillir de la pointe des seins. Uber, en latin, mamelle. Vous y penserez quand vous commanderez sur Uber Eats. Eva Rock, Eric Orsena, d'où vient le mot baragouiner? 1. Du fait que quand on a bu, on ne comprend plus ce qu'on dit. 2. Des Bretons, dont le patois était incompréhensible, faut dire ce qui est. Ou 3. D'un établissement réservé aux femmes, ce qui était incompréhensible pour les hommes.
Alors attendez, d'abord je m'insurge, ce n'est pas un patois, c'est une langue. Après, continuez votre émission, s'il vous plaît.
Ah ben moi,
continuez votre émission, s'il vous plaît.
Vous dites la réponse 2. Et Eric, vous dites aussi la réponse 2.
Bah attendez, évidemment.
Oui, parce que vous connaissez la réponse. Bah, en fait, évidemment. Contrairement à Eva qui dit comme vous, parce que bref. Évidemment. Et oui, ça vient du breton.
La langue bretonne. La belle langue bretonne. Nous ne sommes pas nombreux, pas tout nombreux, en fait. Nous ne sommes que 2 à l'Académie française à aimer les langues, à respecter les langues régionales. Il y a Barbara Cassin qui vient d'être élue, qui a fait un discours absolument magnifique en disant que les langues, c'est la diversité, c'est les langues, c'est pas une seule langue. Et le français n'a pas le monopole pour exprimer le monde.
Alors le breton voilà. Et baragouiner.
Moi, je défends Diwan.
Vous êtes capable de nous dire baragouiner, d'où ça vient, ce que ça veut dire?
Oui, le vin et le vin, ouais, bien sûr.
Le pain et le vin.
Et le vin. Voilà.
Ça a donné baragouiner.
Baragouiner.
J'aimais déjà ce mot. Encore plus.
Vous l'aimez encore plus. Ouais, effectivement. Ouais. Eric Orsena, un amélanchier. C'est l'ancêtre de la brosse à chiottes, un très bel arbuste d'Amérique du Nord ou une personne qui n'a jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Eh bien, c'est le numéro 2. C'est un très bel petit arbuste qui donne en plein milieu de l'hiver des petites fleurs jaunes qui donnent une sorte d'annonce du printemps.
Et là, comme quoi, l'Académie française, c'est pas bidon, hein. Ouais. Et baroque.
Ah bah non, je vais pas jouer là.
Attention, parce que là, on monte en gamme.
Ah bon?
On monte en poésie.
Oui.
On atteint les cimes de la poésie française. Et baroque, une branlette. Ce n'est pas qu'une pratique solitaire bien connue, c'est aussi une technique de pêche très en mouvement, un ancien ustensile de cuisine pour sécher la salade.
J'ai le droit qu'à 2 possibilités.
Oui, là, c'est mieux en fait. Moins vous avez de possibilités, plus c'est plus de chances de gagner.
Eh ben, je penserais bien à la salade.
Vous penserez. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Oui, c'est une technique de pêche,
évidemment,
où l'on donne un mouvement continuel à l'amorce de la ligne,
blague.
Qui n'est pas effectivement sans rappeler une autre pratique. Qui remporte ce quiz? Oh, Eric Orsena qui triomphe des baroques dans un questionnaire portant sur le français. Si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru.
Europe 1.
Une première semaine de télétravail s'achève pour beaucoup d'entre vous. Le bilan est, disons-le, mitigé. En fait, le télétravail, ça pourrait marcher en l'absence de cet animal domestique insupportable qu'on appelle l'adolescent, qui vous dérange toutes les 5 minutes pour un oui ou pour un non.
Pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
Mater efficacement l'adolescent et réussir ainsi à télétravailler. Eva Rock vous l'explique dans 17 minutes de paix, juste après Harry Styles, Adore You, sur Europe.
I get so lost inside your eyes.
Adore You, c'était Harry Styles sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Confinement à l'italienne oblige, c'est depuis mon canapé poltrone sofa, la Tigiana della Qualità, que je vous accueille dans l'équipe est sauvage. 2 heures pour se dégoûter. Vous chantez,
Bah. J'adore allez-y. Cette chanson, vous pouvez pas ça.
Allez-y.
Ça me met dans
allez-y,
une écoute. Humeur, mais génial.
Allez-y.
Non, allez-y. J'ai trop honte.
Lâchez-vous, Eva. Tout le monde est au balcon, tout le monde chante.
Oui.
2 heures pour se dégourdir les neurones et tonifier vos zygomatiques en départageant, comme au bon vieux temps, les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui sont avec nous en duplex de chez eux, sauf l'inénarrable Eva Rock, que vous venez d'entendre, qui est, elle, en duplex depuis le studio Coluche, qui, cela dit, est un peu chez elle, vu le temps que vous y passez.
Oui.
Eva, vous le savez, vous m'avez toujours été indispensable, mais désormais, vous êtes aussi indispensable à nos auditeurs, en tout cas ceux qui essayent de travailler et qui ont sous leur toit ces êtres bruyants et psychologiquement insaisissables qu'on appelle des adolescents. Des êtres capables de vous dire au 4e jour du confinement...
De toute façon, on en a marre de la France, on va fuguer. Hein, partir sur Strasbourg, à vendre des bracelets sur la plage.
Oui, face c'est ça. À ce fléau, Eva, vous avez une solution. Votre rubrique 17 minutes de paix. Livrez-nous vite vos idées pour occuper nos enfants et nos ados qui commencent déjà à trouver le temps long.
Alors un petit point d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les conseils de programme qu'on a donné depuis le début de la semaine sur europe1.fr si vous avez loupé une référence ou si vous avez besoin de plus de contenu, ce qui risque d'arriver dans les prochains jours. Les podcasts sont à votre disposition. Alors pour les petits, je vous ai déniché une très très jolie web-série qui est réalisée et mise en ligne sur le site du Centre Pompidou. Ça s'appelle Mon œil et c'est destiné aux enfants à partir de 5 ans. En fait, chaque épisode dure environ un quart d'heure. C'est là pour découvrir en fait des films d'animation qui embarquent les petits dans l'univers d'un artiste ou au milieu d'œuvre et leur apprend les fondamentaux de l'art, les formes, les couleurs notamment, le tout enrobé par une voix off rassurante et chaleureuse.
Aujourd'hui, vous allez vous amuser avec votre regard. Jouer sur les textures et couleurs pour mieux comprendre le design. Voyager entre rêve et réalité. Et enfin, aider un drôle de facteur à distribuer le courrier.
Alors chaque numéro de Mon œil est découpé en chapitres qui contient une vidéo. C'est des petits films, la plupart du temps qui sont mis en musique. C'est pas, il y a pas de blabla sur l'histoire de l'art. En fait, il s'agit plutôt d'une initiation au beau et aux formes, une forme d'éducation de l'œil en quelque sorte. Il y a un côté un peu hypnotique et très poétique dans tous les films. On apprend par exemple des règles d'architecture en regardant comment on peut fabriquer une maison à partir de biscuits et autres aliments. Vous allez suivre les aventures d'un postier d'un seul crayon.
À partir de biscuits.
Oui, vous allez voir.
Mais quel est l'intérêt ?
Eh ben non, c'est juste pour vous montrer les bases de l'architecture, comment on construit une maison et les bases, tout ça est en film d'animation. Non, bien sûr que non. Tout est le film d'animation est fait à partir d'aliments. Vous allez aussi découvrir une histoire d'amour entre un boucher et sa cliente grâce à un film animé très onirique. Voilà, vous allez être heureux de voir vos enfants franchement devant l'écran avec Mon œil. C'est une web série qui est gratuite et qui est à découvrir donc sur le site centrepompidou.fr.
Pompidou.
D'accord.
Ok, alors on enchaîne. Bah. Est-ce que les ados aussi ont droit à un nouveau contenu,
ma chère? Oui, et alors on le doit une nouvelle fois à la formidable plateforme de France Télévisions /TV qui vient de mettre en ligne sa nouvelle série qui est intitulée Stalk. Alors si vous ignorez le sens de ce mot qui est très connu des ados on est rivés sur l'écran de leur smartphone, eh bien c'est Lucas, le héros de la série, qui vous explique tout, enfin presque.
Le stalker est un chasseur et il vient de trouver sa première proie. Qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Mater un profil Facebook, googliser une date, scruter l'insta d'un mec ou d'une meuf, on est tous des stalkers. La seule chose qui compte, c'est de pas se faire cramer.
Alors Lucas, il est étudiant, et c'est très très bien franchement, Lucas il est étudiant dans une excellente école d'ingénieurs, c'est un petit génie de l'informatique, sauf que son week-end d'intégration marqué par un bizutage s'est très très mal terminé, il a été humilié par des élèves plus âgés et donc il va décider de se venger. Et Lucas, il a un avantage sur eux, c'est sa maîtrise des outils informatiques et notamment le piratage des caméras, des smartphones et autres ordinateurs. Et donc il sait tout sur tout le monde et il peut influencer les actions des uns et des autres et les rendre paranoïaques surtout. Alors notre héros n'a pas de morale du tout, mais franchement on l'aime et on aurait presque envie de l'inciter à aller encore plus loin. Imaginez Mathieu, par exemple, c'est comme si je pouvais continuer à vous espionner chez vous après cette émission, vous voir, vous entendre. Vous voyez, je trouve ça assez fascinant. Non, c'est pas que ça m'exciterait, je trouve ça assez fascinant. Enfin, on va se calmer.
Ça peut vous faciliter votre confinement, j'installe une webcam si vous voulez.
Ouais. Alors, vous l'avez compris, en fait, c'est une série totalement addictive. 10 épisodes de 23 minutes que vous allez dévorer avec vos ados. Au casting, le formidable Théo Fernandez dans la peau de Lucas, déjà vu dans une autre série que je vous avais conseillée, Irresponsable responsable. Le tout est très bien dialogué, c'est très bien mis en scène et c'est à voir gratuitement sur slash.tv. En revanche, je préfère vous le dire, vous risquez de vous méfier encore plus de votre smartphone et des réseaux sociaux. Remarquez, c'est pas plus mal. Hein.
C'est peut-être l'occasion, Eva, de faire un petit point sur le site Marmite Love sur lequel vous êtes inscrite.
Alors, pour si vous pensez que j'ai que ça à faire en ce moment, de toute façon, je peux pas rencontrer les gens, donc ça sert à rien.
Mais justement, c'est mieux parfois de fantasmer les gens que de les rencontrer.
Ça, c'est sûr, je vous le confirme.
Merci, Eva, pour vos 17 minutes de paix.
Qu'est-ce qu'il y a, Eva ? C'est très bizarre comme expression.
C'est vrai que cette expression est bizarre.
C'est vrai que
un bruitage suffirait à vraiment faire tomber cette émission dans quelque chose de très graveleux. Vos enfants sont occupés, vos ados jugulés. L'équipée sauvage va pouvoir passer à la deuxième phase de la compétition. Deux nouveaux journalistes confinés vont nous rejoindre par téléphone pour tenter à leur tour de décrocher la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Au programme, des conseils, des infos insolites et même des recettes de cuisine pour mieux vivre le confinement. L'équipée sauvage, une émission qui vous incite à rire bien sûr, mais aussi pour ceux qui sont confinés seuls, c'est important, à vous faire rire vous-même, comme Eva Rock s'y exerce avec succès au quotidien, par exemple en prononçant à haute voix des noms de groupes anglais qui sonnent rigolos en français.
Préfab Sprout.
Ah, c'est bon de rire.
Non, je riais.
Et savoir se faire rire soi-même en temps de confinement, c'est précieux.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Agnès Buzyn avait pourtant prévenu Édouard Philippe dès la mi-février. Sylvester Stallone nous avait pourtant prévenu dès Rocky 6.
Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est comme ça qu'on gagne.
Si seulement on avait écouté Stallone et Buzyn, mais non, nous voilà donc confinés. La bonne nouvelle, c'est que l'équipée sauvage est toujours là et qu'une deuxième heure de rire et de découverte vous attend avec Eva Rock, Fred Goati, Olivier Pouls. Pas d'invité, confinement oblige, mais bon, en même temps, avoir un invité en ligne est-il vraiment de nature à nous remonter le moral? Hier, par exemple, on avait Thomas Dutronc, ça allait pas fort fort. Une pensée pour ceux qui, pour le type ou la femme qui est confinée avec Rémi Bricard. Ça doit pas être simple en ce moment. Toute la journée.
Ce qui est bien, c'est que c'est.
Oui.
Oui. Donc, ce qui est bien, c'est que la femme qui sera confinée avec Rémi, en tout cas, lui, il fait vachement le ménage et tout ça. C'est vachement propre parce que Rémi Bricard. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est un peu la fatigue.
Oui, donc, bon, pas d'invité en deuxième heure. On s'est dit que c'était mieux. Mais dites-moi Eva, il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous Théo Manval.
Des mesures qui se renforcent pour faire respecter le confinement partout en France. Les voies sur berge, l'esplanade des Invalides et celle du Champ de Mars près de la Tour Eiffel à Paris sont fermées au public pour tout le week-end. Même chose à Nice pour la promenade des Anglais. La ville va même mettre en place un couvre-feu après 20h. Dans la capitale, le préfet de police se dit même prêt à étendre les interdictions jusqu'au département de Petite Couronne s'il continue à y avoir trop de monde en promenade. Les contrôles sont aussi renforcés dans les gares. Aujourd'hui, seul un quart des TER est en circulation, 15% des TGV. Mais le gouvernement pourrait encore faire baisser ce nombre et rappelle que partir en week-end ou en vacances ne fait pas partie des déplacements autorisés. Et dans le sillage des internes de médecine qui ont publié hier une tribune, de plus en plus de soignants pressent le gouvernement de mettre en place un confinement total, beaucoup plus radical qu'aujourd'hui. Ils dénoncent l'autorisation de certaines sorties, le maintien de l'activité pour les entreprises non vitales, je cite. Le syndicat Jeunes Médecins annonce même avoir saisi le Conseil d'État pour contraindre le Premier ministre a serré la vis. Les annulations de spectacles en masse, les fermetures de salles ont, elles, déjà coûté près de 600 millions d'euros au secteur du spectacle vivant. Alerte lancée ce soir par le syndicat de professionnels Prodis. Près de 38 000 personnes se retrouvent en arrêt de travail. En Outre-mer, cette bonne nouvelle sur le front de la presse, la rédaction du journal France Antilles va reprendre du service avec un peu d'avance pour informer la population sur la crise du coronavirus. Information pour l'instant en ligne, uniquement sur le site du journal. France Antilles est le dernier quotidien papier en Outre-mer, le seul. Il avait été liquidé fin janvier avant d'être repris par l'homme d'affaires Xavier Niel et il doit reparaître sur papier à partir du 1er avril prochain. Deux personnes en garde à vue à Paris pour avoir gardé des masques malgré les réquisitions. Il s'agit, pardon, d'un gérant de pharmacie et du responsable d'une agence de voyage. Par ailleurs, un nouveau vol a été signalé aujourd'hui dans un hôpital à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. 400 masques et du gel hydroalcoolique dérobés à l'intérieur d'un établissement. Au niveau mondial, on compte désormais plus de 10 000 morts du coronavirus. La Jordanie impose à partir de demain un couvre-feu à sa population. L'État de New York, aux États-Unis, interdit tous les rassemblements et toute activité non essentielle. Alors que la crainte d'une propagation en Afrique se renforce, plus de 500 contaminations, dont la moitié en Afrique du Sud, et 2 décès, dont un aujourd'hui au Gabon. Enfin, cette belle initiative en Allemagne, un restaurant étoilé de Berlin cuisine désormais gratuitement pour le personnel soignant. Le Toulouse-Lautrec a dû fermer ses portes il y a quelques jours au public, mais ses propriétaires peuvent continuer de travailler. Fini quand même la grande cuisine, place désormais au plateau repas pour le service de soins intensifs et les cabinets médicaux voisins. 17h03 sur Europe 1, comme promis, toutes les heures, on répond à vos questions sur le Covid-19, hashtag Radio Ouverte sur Twitter ou bien au 3921, et c'est le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, qui nous répond. Bonjour docteur.
Bonjour Théo.
Je le disais donc tout à l'heure, le président du conseil scientifique demande à ce que lorsque le confinement sera levé, alors dans plusieurs semaines, peut-être un mois, on teste l'ensemble de la population, même les porteurs sains, pour limiter la propagation à venir du virus. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, pour l'instant, la problématique, elle est qu'on n'arrive même pas à tester les personnes qui sont symptomatiques. J'ai du mal à croire que d'ici quelques semaines, nous pourrions dépister massivement les gens. Néanmoins, si on respecte une période d'isolement où on n'a aucun contact pendant les 14 jours, on peut être persuadé de ne pas avoir la maladie. Donc, tester des porteurs sains pour éviter un second effet rebond de la maladie pourrait être intéressant. Mais je pense que dans l'état actuel, c'est illusoire de croire que nous allons pouvoir tester 60 millions de la population. D'autant plus que certains épidémiologistes nous disent que 70% de la population risque d'avoir le coronavirus. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quasiment 50 millions de Français à tester, ça me semble un petit peu déraisonnable.
Sachant qu'on n'arrive pas à faire plus de 5 à 8 000 tests par jour, effectivement. Autre question sur le hashtag Radio Ouverte qui nous est parvenu. Un auditeur qui nous dit être allergique au pollen et qui se demande est-ce qu'il doit reprendre son traitement là avec le printemps qui arrive, ou est-ce que c'est risqué?
Exactement, il faut absolument reprendre son traitement antihistaminique. La saison du pollen arrive à la fin du mois et donc il faut absolument le prendre pour deux raisons. La première, c'est que vous allez, si vous faites une allergie, développer des symptômes respiratoires et vous pouvez du coup confondre ces symptômes avec du coronavirus. Vous allez croire que vous êtes malade, vous allez vous précipiter chez le médecin et on va peut-être être inquiet, vous mettre en confinement. Donc un, c'est pour distinguer une allergie du coronavirus. Et puis deuxième chose, les personnes qui sont allergiques ont parfois un terrain asthmatique, un terrain à faire plus d'infections. Et donc si vous ne prenez pas votre traitement, vous allez avoir votre rhinite, vous allez tousser, et si par-dessus vous attrapez le coronavirus, il est possible que vous développiez des complications ou une forme plus sévère. Reprenez votre traitement antihistaminique, ça n'a absolument aucun problème, et au contraire c'est bénéfique, c'est même recommandé.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, on vous retrouve dans le journal de 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
17h05 sur Europe 1, très belle fin d'après-midi, vous êtes avec Mathieu Noël, c'est la suite de l'équipée sauvage.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Le confinement commence sévèrement à vous peser. La nuit, vous faites des cauchemars terribles et votre conjoint ne sait plus quoi vous dire lorsque vous le réveillez en sursaut en hurlant.
Je me suis réveillé au Moyen-Âge, en l'an 1000, entouré par des gnomes puants, je m'ont piqué ma boucheron en or, on m'a enduit de poids, traîné sur un bûcher qu'ils ont allumé avec des torches, et après...
Respirez fort et surtout, écoutez l'équipée sauvage. 2 heures de bonne humeur et de découverte qui agiront sur vous comme une tisane déstressante. Car même confinés, chacun chez nous, vous verrez qu'on passe de fort jolis moments sur Europe 1 entre 16h et 18h. Les journalistes de la rédac continuent de se mesurer au service de votre culture G et se mobilisent surtout pour vous prodiguer infos et conseils utiles afin d'occuper ces longues journées à la maison. Avec moi en duplex du studio Coluche à Europe 1, celle qui passe désormais ses journées à envoyer des sextos.
Mais je revendique pas l'aubergine. Oh là là.
Et Baroque, vous êtes toujours avec nous?
Bah oui.
Arrêtez de sextoter, concentrez-vous.
Mais je suis très concentrée, je vous suis là.
Bien
attendez,
sûr.
C'est un boulot quotidien, c'est un sport quotidien quoi.
Vos conseils télé-écran sont désormais décisifs ma chère Eva. Combien d'heures de programme télé êtes-vous en mesure de nous proposer ce soir?
Alors là je crois que j'ai battu mon record aujourd'hui. Franchement, je vous dis, je peux pas vous dire pourquoi, mais
on a
je
quoi
pense...
te dire toute la nuit si jamais on fait des insomnies.
Non, vous en avez pour une semaine, je dirais.
Plus que
même.
Ça. Ouais. Une semaine.
Ouais, ouais.
Prenez les devants. Eva, vous êtes également toujours même à distance, la grande ordonnatrice de l'équipe Sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Deux nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour nous rejoignent pour cette deuxième heure. Le premier est un garçon dont la vie ne doit vraiment pas être drôle en ce moment. Confiné qu'il est dans le Grand Est, région très touchée, on le rappelle, par le coronavirus. Mais la question est, sa vie quotidienne est-elle vraiment moins triste qu'avant? Ce témoignage qu'il nous avait livré le mois dernier au détour d'un enregistrement laisse penser que, ben, peut-être pas.
Bah, tu sais, j'ai écrit mon papier hier soir dans le, au flunch de Sarrebourg.
Et oui, il fait partie de ces rares personnes dont la vie était déjà pourrie avant le confinement. Bonjour Arthur Anne-Maché.
Salut tout le monde.
Vous êtes notre correspondant dans l'Est et l'espoir renaît dans l'Est sous la forme d'une cigogne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Arthur?
Bah, cette histoire, c'est la vraie solution pour rendre vos journées de confinement moins interminables. De quoi vous occupez vous et vos enfants en ouais. suivant les aventures de deux cigognes et de leurs, non pas trois comme hier, mais leurs quatre œufs en live grâce à une webcam en Moselle.
Oh,
il y a un nouvel
œuf.
Ouais.
Votre rival, peut-être un nouvel œuf d'ici votre chronique. Votre rival du jour, Arthur, va vous faire du bien aussi, mais différemment, par l'entremise
de la
musique.
Elle n'a pas l'air de pondre, là, je la regarde.
Non. Bah, suivez-la, suivez-la. Mais, aidez-la, sinon, couvez-vous aussi. Votre rival du jour, Arthur, va nous faire du bien aussi, mais différemment, par l'entremise de la musique. Une musique qu'Eva Rock connaît bien, puisqu'elle était le point culminant de sa playlist Soca Sex Marathon. Sex Machine, le tube de James Brown à 50 ans, les amis. Il rappelle évidemment moult souvenirs à Eva.
Tout dans les lombaires, en
soufflette.
Mais c'est le directeur de Jazz Magazine, Fred Goetti, qui va nous en révéler les secrets. Bonjour Fred.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Alors, seul ou en famille, c'est le moment ou jamais de danser. Et pour ça, quoi de mieux que James Brown?
Eh oui, parce que moi, pour garder la forme et le moral, donc j'écoute des disques de funk et je danse tout seul dans mon bureau. Enfin, ça fait beaucoup rire ma compagne quand elle passe devant la porte. Mais voilà, donc aujourd'hui, concentrez-vous, j'aimerais qu'on retourne 50 ans en arrière, la nuit, oui, la nuit du 25 avril 1970, en studio avec James Brown et ses jeunes musiciens. Et ma chronique, bah en fait, elle pourrait tenir en deux mots.
Machine.
Ah oui,
wow.
Ah, c'est la
voit.
Classe. Hein.
Ah, ça me donne déjà envie de groover. Là. Merci Fred, vous connaissez maintenant le programme de cette deuxième heure. Normalement, vous le savez, c'est le moment de l'émission où on écoute le micro-trottoir de l'invité. Doublement impossible aujourd'hui puisqu'il n'y a plus ni invité ni gens dans la rue pour faire le micro-trottoir. En revanche, vous êtes très prolixe au téléphone. Comment vivez-vous cette quatrième journée en vase clos? Vous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Bonjour, c'est Léonore. Je vis avec mon fils qui a 13 ans et mon nouvel amoureux. Un amoureux que j'ai rencontré il y a 2 mois et qui, grâce ou à cause de ce confinement, vient vivre avec nous. Alors c'est l'aventure, on essaye de trouver nos marques. En tout cas, il est là.
Comme je n'ai pas voulu faire des stocks de PQ, je dois avouer que maintenant on en est à une feuille, pas plus.
Tu tombes bien, t'as quel âge ?
3 ans.
3 ans, super.
Mais bon, c'est du Lotus Plus, triple épaisseur, donc ça devrait aller.
T'es contente d'être à la maison avec tes parents ?
Non.
Ah non, d'accord.
Tant qu'on a du Lotus Plus triple épaisseur, visiblement, on peut rester serein pour l'avenir. On fait un petit point avec nos confinés à nous. Arthur Anne-Maché, comment ça se passe dans l'Est actuellement ? La situation est très difficile dans cette région. Vous, comment vous le vivez au quotidien ?
Pour moi, ça change pas. Enfin, si, ça change. L'exercice du boulot change pas énormément parce que moi, j'ai l'habitude de travailler
c'est
de
vrai.
Chez moi. Souvent, je vous l'ai déjà dit, en pyjama. C'est vrai.
C'est vrai,
la grande différence, c'est de plus sortir sur le terrain, évidemment. Mmh. Et ça, c'est,
ouais,
c'est ultra
ouais, c'est
frustrant quand on voit tout ce qui se passe dans le coin. Donc, on bosse par téléphone et on essaye d'attraper des infos et de quand même essayer d'avoir des images, que les gens nous racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, pour essayer de rendre les choses un peu vivantes à l'antenne.
Merci Arthur. Vous, Fred Goetti, bon, ça change rien. Le confinement, vous êtes toujours enfermé à écouter des disques.
Bah ouais, exactement. Je suis confiné dans le 20e arrondissement et j'ai un scoop mondial. Les rues sont vides. Enfin, à moitié vides. Deux tiers vides. Sauf les moments où les gens vont s'acheter à manger, du pain, où il y en a qui courent.
Les gens respectent plutôt,
Non, à Paris, ils respectent rien du tout, Mathieu.
Non, on voit des choses,
moi, dans ma rue, je
vois des choses qui sont assez moyens. On rappelle aux gens de rester chez eux. C'est à ce prix qu'on va s'en sortir. La France se barricade. Nous sommes tous en duplex de chez nous, mais l'équipée sauvage continue, confiante dans la capacité de ceux qui nous dirigent à surmonter cette crise sanitaire sans précédent.
Oui, exactement. Il nous faut des pouvoirs magiques.
C'est ça. Faut pas croire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
Courage, monsieur Véran.
Europe 1.
Oui, la magie, c'est ce dont nous avons tous besoin en ce moment. Or, quoi de plus magique que la nature ? La nature qui est si belle, jusqu'à ce qu'elle croise évidemment le chemin d'Olivier Pouls.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages.
Heureusement, Pouls est très loin de Saralbe en Moselle, où une cigogne a décidé de squatter le clocher d'une église. Et vous pouvez suivre ses aventures en vidéo, en direct. Une belle histoire feel good que nous compte dans un instant notre correspondant dans l'Est, juste après Revival, Gregory Porter sur Europe 1.
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. But you lift me high up, out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song.
Revival.
I'm singing revival,
revival,
revival, revival song.
Revival.
I try to find you.
C'était Gregory Porter sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Mathieu Noël.
Dans l'équipe sauvage spécial confinement, on prend des nouvelles de vous, mais aussi de nos correspondants en région. Or, pour certains, vous allez voir que le confinement est une bonne chose. Je pense notamment à Arthur Nbaché, notre correspondant dans le Grand Est, dont le foie était au point de rupture depuis son légendaire reportage sur la route de la bière. Reportage à l'issue duquel la direction lui avait imposé de consulter un médecin du travail qui avait du mal à cacher son inquiétude.
Et vous buviez combien par jour ?
Ça, je sais pas. Je compte pas. Les 40.
40 ? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant ?
Question à laquelle il n'avait pas su apporter de réponse. Bonjour Arthur Nbaché.
Bonjour, bonjour.
Cette petite pause vous fait donc le plus grand bien. Elle vous permet d'oublier la bière pour vous recentrer sur l'essentiel, la nature. Et justement, c'est une belle histoire que vous nous racontez ce soir.
Ouais, une histoire avec donc des cigognes qui sont sur une webcam en Moselle. Alors,
Vous pourrez vous dire, tiens, est-ce qu'on va vraiment intéresser les gens avec ça? C'est vrai que c'est nul. Une caméra fixe.
Vous êtes incroyable, Arthur. C'est pour ça que vous êtes le meilleur.
Une caméra fixe sur une cigogne immobile qui regarde passer les passants qui passent pas puisqu'il n'y a pas un chat dans les rues à cause du virus. Au début, c'est nul. Après, ça reste nul, disons-le. Une camionnette passe. Pas d'impact notable sur la cigogne. Un pigeon passe. Pas d'impact notable sur la cigogne. Vous allez fermer la fenêtre du site internet de la mairie de Sarralbe. C'est sans doute le plus raisonnable. Et là, papa cigogne arrive. Ah. Un peu d'animation. Il fait quelques pas. Il est là, debout. Très vite, ça redevient nul. Mais la maman se lève. Et on voit sous la maman, entre ses pattes, non pas trois comme hier, mais quatre gros œufs blancs. Et alors bon, c'est pas incroyable, trois ou quatre œufs de cigogne, mais il faut reconnaître que voir là, en direct, cette petite famille ou future famille, ça commence à devenir presque sympathique. Le mâle repart, vous le voyez sauter dans le vide et déployer ses grandes ailes noires avant de sortir du cadre de la webcam. Il reviendra cinq minutes plus tard avec une brindille dans le bec pour améliorer le nid niveau suspense. C'est pas une série Netflix, mais en fait, ça se regarde.
Mais j'ai limite envie d'y aller, moi.
Alors Arthur, mais c'est ce qu'on va faire après, mais on va pas passer nos journées confinées à regarder ça quand même.
Et si vous tentiez, Mathieu, hein? Vous les voyez passer comme moi, toutes ces papiers sur comment supporter le confinement, comment s'occuper intelligemment pendant le confinement, comment ne pas avoir envie de divorcer pendant le confinement, comment gérer ses gamins pendant le confinement, yoga, méditation, confinement. Alors tant qu'à faire, voilà ma contribution. Cigogne, philosophie et confinement. Elles sont belles, vous savez, ces deux cigognes. Ils sont beaux, ces quatre œufs. Et quand le soleil couchant se pose sur le toit de l'église du village, que papa cigogne arrive avec une belle touffe de mousse et d'herbe fraîche dans le bec et qui pose tout ça délicatement autour de sa cigogne, qui va pouvoir couver confortablement, vous verrez, la chose peut devenir une expérience intérieure. Lenteur, ennui, méditation. Et puis franchement, si notre aventure confinée doit durer 6 ou 8 semaines, une journée devant la webcam de la mairie de Sarralbe, ça se tente.
Oh, je trouve ça génial. Franchement.
Et vous êtes convaincu?
Ah, mais j'ai hyper envie de. Mais de toute façon, je vais y aller, je vais aller voir, quoi.
Je sais pas, bonne journée.
C'est où Sarralbe en Moselle? Je ne sais pas du tout. Hein.
La Moselle, c'est le département qui touche l'Alsace, donc c'est tout au nord-est de la France, frontière allemande, au nord de, extrême nord-est de la France.
Mais c'est génial d'avoir mis une petite caméra comme ça pour regarder les cigognes.
Ça fait quelques années que les habitants du coin les observent. Là, je peux vous dire.
Il va donc.
Papa cigogne est en train de gratouiller l'oreille de maman cigogne.
Oh,
presque
c'est trop
mignon.
Oh,
et puis surtout, certainement, il va s'envoler du nid dans deux minutes pour aller choper une autre cigogne un peu plus loin. C'est ça aussi. C'est ça aussi la nature, Arthur. N'essayez pas d'idéaliser les animaux. Bon. Alors, en tout cas, il va passer sa journée à mater des cigognes. C'était notre ami zoophile Arthur Mbaché en direct avec nous de l'Est. On vous retrouve très bientôt, Arthur, mais surtout pour le vote tout à l'heure, puisque peut-être que vous serez le premier correspondant en province à remporter le titre de chroniqueur du jour.
Je suis très
confiant. moi, oui. Sur un malentendu, à tout à l'heure.
Europe 1.
Pour vous distraire un peu en ce moment, les écrans sont bien utiles. Encore faut-il choisir son programme. Pour ça, une professionnelle est à votre service. Chaque jour, Eva Rock scrute la jungle des contenus vidéo. Elle regarde vraiment tout, c'est effarant. Hier, elle s'est même refait les vidéos de Benjamin Grigou.
Mais non, il est hyper émouvant, je trouve, dans ses vidéos, en fait, parce qu'on sent qu'il prend ça à cœur.
Non. D'accord, qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur nos écrans?
Idiot.
Ne prenez aucune décision avant d'avoir entendu les conseils d'Eva Rock.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. Carrefour. Vos magasins Carrefour et votre site carrefour.fr restent ouverts et toutes nos équipes sont mobilisées pour préserver la santé de tous. Nos chariots, paniers et scanettes sont désinfectés tout au long de la journée. Nous mettons tout en œuvre pour assurer une distance minimale entre chaque client. Nous mettons aussi en place des caisses prioritaires pour les personnes les plus vulnérables et pour le personnel soignant. Ensemble, restons mobilisés. Carrefour.
Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr.
L'équipe est sauvage revient dans moins de 30 secondes sur Europe 1 et on se dépêche parce que la coupure pub, c'est toujours le moment où on oublie qu'on est enregistré et qu'on dit n'importe quoi pour tester les micros, comme le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier dans la matinale.
Alors, on fait une vérification du niveau. Bonjour, Christophe Castaner, spécialiste mondial de la pêche à la mouche dans les Alpes d'Haute-Provence.
Mon conseil, restez plutôt sur le classique Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Se cultiver et se gondoler, même confiné, vous écoutez l'équipe est sauvage. Des moyens militaires au service de votre bonne humeur. Journalistes et techniciens restent mobilisés. L'inoxydable Eva Rock est en duplex du tuyau Coluche dans une radio déserte où elle est ravitaillée directement par hélicoptère.
Merci, merci beaucoup. À bientôt, hein. Ils sont sympas, ces pilotes.
Eva, avant qu'une responsabilité plus importante encore ne vous incombe, repeupler l'humanité avec ces fameux pilotes, une autre responsabilité plus immédiate est la vôtre, nous dire quoi regarder sur les écrans ce soir pour nous éviter de devenir complètement chèvres.
Eh ben, je vous propose de rester jeunes, hein, comme disent les vieux. Je vous propose une nouveauté et une série vintage sur un air de rap. La nouveauté est à voir sur Canal Plus Série ou MyCanal.fr. Une série de et avec Franck Gastambide validée. Et ça fait alors, bienvenue dans le monde impitoyable du rap validé. C'est un peu Dallas en banlieue et dans les studios des plus grands labels de rap. Le pétrole, c'est la drogue et le flow des rappeurs. Et puis, il y a autant de fric, autant de trahison, de coups tordus, de manipulation. Validé, c'est l'histoire de Clémence, un petit dealer ultra doué en rap qui parvient à se faire remarquer et à qui on va faire croire qu'il peut jouer dans la cour des grands. Mais entre rappeurs, la concurrence fait rage, les maisons de disques qui achètent des vues sur Internet, des artistes qui se piquent les mélodies les uns aux autres. Difficile de survivre dans cette jungle et Franck Gastambide réussit le tour de force de mêler une histoire qui est très noire à des séquences de comédie, notamment grâce à un personnage, celui de Brahim, c'est le cousin et meilleur ami de Clément qui multiplie les gaffes. Le garçon a une idée lumineuse, écoutez bien Mathieu, pour le premier clip de Clément.
Bon, on n'a qu'à faire avec un animal sauvage, je sais pas moi, un lion ou un singe ou un puma, personne ne l'a fait qu'un puma.
Un puma, Brahim?
Ben ouais.
Tu connais quelqu'un qui a un puma toi?
Non.
C'est toi qui vas le capturer, puma, espèce de teubé, va?
Non.
Là, il nous faut un réalisateur, là. Arrête de dire n'importe quoi.
Réalisateur, réalisateur. Mathieu Kassovitch. On l'a qu'à demander à Kassovitch, il s'entraîne dans la salle de boxe de mon cousin.
Alors là, c'est gris. Bon, non, pour être plus sérieux, la série est décrite avec réalisme. L'univers du rap, c'est quasiment une anthologie de l'histoire du rap français, avec la participation de Kool Shen, de Lacrim, de Soprano et bien d'autres. Mais ceux qui n'aiment pas le rap seront séduits par le côté polar de la fiction. Au casting, Franck Gastambide, donc Sabrina Ouazani qu'on adore dans le rôle d'une directrice artistique d'un label. Et puis deux garçons exceptionnels, ce sont deux rappeurs devenus comédiens. Il y a Attic dans le rôle de Clément et Moussa Mansali dans celui de son rival. Alors Moussa Mansali, vous l'avez peut-être déjà vu dans les deux films de Grand Corps Malade, Patient et La Vie Scolaire. La série repose vraiment en grande partie sur ces deux figures. Moi, j'ai trouvé ça très très réussi. C'est la bonne surprise à voir sur Canal Plus Série et sur mycanal.fr.
Eva, si je ne m'abuse, vous nous aviez promis également une série vintage.
Ah ouais, avec un générique, je vous offre un saut dans le temps. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. Vous connaissez Mathieu quand même?
Pas du tout.
Pas du tout.
Comment je regardais le prince de Bel-Air?
Will Smith dans la peau du prince de Bel-Air est auteur de ce générique mythique, figurez-vous. Une série créée, accrochez-vous Mathieu, pour le coup de vieux, créée en 1990 déjà, voilà.
Et je m'en souviens comme si c'était hier.
Eh oui, parce que vous étiez ado à ce moment-là, vous la regardiez.
J'étais ado et je dégustais un camembert chaque soir en regardant Le Prince de Bel-Air.
Alors, sitcom qui est toujours disponible sur Netflix, vous pouvez ainsi revoir les 148 épisodes. C'est pour ça que je vous disais, vous en avez un peu pour un bon bout de temps, en fait, si vous regardez toutes les saisons. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire, Mathieu? Vaguement.
C'est Will Smith, un mec de banlieue, si
exactement.
On peut dire, qui va vivre chez son oncle,
voilà.
Qui est richissime,
voilà.
Qui est un juge, je crois.
Ouais, exactement. Les banques, hein, il a 17 ans. Voilà. Will, il a 17 ans. Il va quitter son quartier modeste de Philadelphie pour s'installer donc chez cette tante et cet oncle dans un quartier huppé de Los Angeles. Il est fan de rap et de basketball et il trouve cette nouvelle vie plutôt cool. Alors quand on y regarde bien, la comédie, c'était aussi un moyen de décrire quand même le conflit entre les classes sociales. Et puis elle s'est emparée de sujets sociétaux comme la représentation des Noirs, le thème de la grossesse, de la drogue. Franchement, j'ai re-regardé. Alors, évidemment, pas les 148 épisodes, vous imaginez bien, mais j'en ai regardé quelques-uns.
Ça a bien vieilli?
Ouais, ça a plutôt bien vieilli. J'ai trouvé ça très rythmé, en fait. Et évidemment, le jeu des acteurs est absolument parfait. Le Prince de Bel-Air, produit notamment par un certain Quincy Jones, qui fait une apparition à chaque épisode, parce que si vous regardez bien, c'est le chauffeur de taxi dans le générique de la série. Et c'est à voir sur Netflix.
Non.
Eh oui, vous regarderez, puis vous penserez à moi comme ça. Voilà.
C'est un petit scoop, Eva, j'avais jamais remarqué.
Ben oui.
Le Prince de Bel-Air, la série qui a fait découvrir au monde Will Smith, qui est devenu ensuite rappeur. Notre rappeur à nous arrive tout à l'heure, c'est Snoop Doggy Bag, Olivier Poulx pour Délicite Extremis.
Europe 1.
Sex Machine, c'est le pseudo Tinder d'Eva Rock, mais c'est aussi une chanson culte interprétée pour la première fois par James Brown il y a pile 50 ans. Fred Goetti a réuni tout le pognon qu'il a trouvé dans les caisses de Jazz Magazine. Avec Eva, on a mis tout le blé qui restait à Europe 1 pour lui organiser un méga anniversaire. Joyeux anniversaire, James. Ah bah, en même temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en ce moment. Hein. On va danser avec James Brown, peut-être au balcon, juste après Stromae et Carmen sur Europe 1.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
De la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
Carmen, c'était Stromae sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Cinquième jour de confinement aussi pour la petite bande de l'équipe est sauvage. Dans ces moments difficiles, comme vous, on se raccroche à ce qu'on a de plus précieux, ce qui nous est le plus utile pour tromper l'ennui. Fred Goetti a un 45 tours collector de Miles Davis, moi un exemplaire dédicacé du dernier roman de Jean d'Ormesson, et Varrock a ce sextoy double embout qu'on s'était cotisé pour lui offrir le mois dernier.
C'est mon cadeau.
Mais je sais, tu me l'as montré l'autre fois. T'en es très fière. Hein.
Ouais, j'en suis très fière, je le garde avec moi.
On ne juge pas. Sachant qu'une chose peut nous réunir en ce moment, les amis, par balcon interposé, la danse. Et pour danser, il y a un tube ultime qui fête ses 50 ans au mois d'avril. Fred Goetti, vous nous racontez ce soir l'histoire d'un morceau légendaire.
Oui, et d'ailleurs, on va recommencer, tiens, par le commencement. On va se refaire cette intro parlée qui est absolument extraordinaire.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.
Non, Mathieu, ne sautez pas tout de suite sur la table pour danser. Un peu de patience. Ah ben, c'est malin, vous avez fait peur à Miam, votre chatte, c'est malin.
Miam, elle s'est réfugiée dans le canapé, là.
Ben, je la comprends. Alors, bon, concentrons-nous. Nous sommes donc en mars 1970, et imaginez un peu. Les musiciens de James Brown viennent d'entrer subitement dans sa loge parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de faire des tournées interminables, d'être mal payés, et en plus d'être mis à l'amende dès qu'ils font une fausse note, ou loupent un pas de danse.
Mais comment ça, James Brown faisait payer des amendes à ses musiciens?
Oui, monsieur. Et comme la plupart d'ailleurs des jazzmen qui dirigeaient un big band, James Brown était extrêmement exigeant avec ses musiciens et ne supportait pas, mais alors pas du tout, la moindre erreur. Alors, vous savez, James Brown, on l'appelait Mr. Dynamite, Monsieur Dynamite, The Godfather of Soul, en français, le parrain de la soul, mais on surnommait aussi The Hardest Working Man in Show Business, en français, l'homme le plus bosseur, le plus travailleur du show business.
Et alors, les musiciens de James Brown, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ah, alors ils ont osé, tenez-vous bien, ils ont osé demander à leur patron une augmentation.
Ils sont fous.
Attention, vous, je vous le dis tout de suite, ne me demandez jamais ça. Je serai encore plus terrible, encore plus impitoyable que James Brown.
Je ne me permettrai pas, Mr. Noël. Parce que vous savez, il fallait l'appeler Mr. Brown, Monsieur James Brown. Et d'ailleurs, lui-même, en retour, appelait tout le monde Mr. Noël, Mr. Rock. Enfin, voilà, il ne fallait pas lui manquer
de respect. Mrs. Brown.
Vous révélez l'identité sexuelle secrète des Baroques.
C'est l'émotion.
C'est un grand jour. Oui, c'est ça.
Alors, leur rock était évidemment tout simplement inadmissible pour James Brown. Résultat, quasiment tous ses musiciens ont décidé de démissionner sur le champ, lui promettant tout juste d'honorer une dernière date de la tournée pour qu'il ne soit pas complètement dans la mouise. Alors évidemment, piqué au vif, pour ne pas dire totalement furieux, James Brown a immédiatement ordonné à son chanteur et proche collaborateur Bobby Bird d'appeler à la rescousse un groupe de jeunes musiciens qu'il avait repéré quelques temps plus tôt. Ils s'appelaient les Pace Setters. Alors Bobby Bird les a fait venir immédiatement dans le jet privé de James Brown, et ils ont déboulé juste avant le début du concert pour remplacer sur le champ les musiciens de James Brown
qui ont été, je vous jure que c'est vrai, obligés de descendre
de scène sans moufter devant le public qui n'y comprenait strictement rien. Mais c'est véridique.
Mais c'est dingue.
C'était pourtant pas gagné, mais ils ont fait un triomphe. Alors on pourrait dire baptême du feu, non. Baptême du funk.
Mais c'est dingue.
C'est dingue, ouais. C'est absolument dingue cette histoire. Et Sex Machine, alors Fred, Sex Machine, on veut savoir l'histoire de cette chanson.
Excusez-moi, je m'égare un petit peu. Oui, alors quelques jours plus tard, James Brown a emmené ses nouveaux musiciens, qui étaient tous très très jeunes, pour la première fois en studio à Nashville. Donc après un concert, tenez-vous bien, il était minuit passé. Et c'est donc là, le 25 avril 1970, que James Brown va griffonner, alors à la hâte, des paroles sur une grande feuille blanche. Il va se mettre au piano. Et il va devenir le roi du funk avec Get Up, I Feel Like Being Like a Sex Machine. Parce que ça, c'est le titre original, attention. Mais évidemment, le monde entier va retenir tout simplement le titre de Sex Machine. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Alors évidemment, on aimerait l'écouter en entier, mais le temps nous manque.
Oui.
Alors, rendez-vous compte, il n'a fallu que deux essais seulement pour enregistrer Sex Machine. Et c'est la première prise, donc la première fois que les musiciens ont joué ensemble ce morceau en studio à minuit passé dans un studio de Nashville. Et ben, c'est ce qu'on entend sur le disque. Et tenez-vous bien, le bassiste Bootsy Collins, il n'avait que 18 ans à l'époque.
Ouais, c'est incroyable quand même, hein. Ouais.
Alors, Fred,
Je crois que Non, je crois que James Bond a eu d'autres tubes quand même après Sex Machine. On le réduit souvent à Sex Machine, mais il en a eu d'autres.
Ah bah oui, non seulement effectivement, il en a eu plein avant, hein, It's a Man's World, plein de 45 tours à succès. Et dans la seconde moitié des années 70, alors ils sont peut-être moins connus du grand public, mais beaucoup ont servi de base, rythmique notamment, au premier morceau d'un nouveau genre né à la fin des années 70, eh bien le hip-hop. Et puis il y a évidemment Living in America, dans Rocky IV en 1985. Mais, alors une dernière chose, avant de se quitter, j'ai un petit cadeau. J'aimerais vous faire écouter attentivement un autre morceau de 1974 environ, un autre morceau de James Brown. Got gas, been a coughing, till my body began to sweat down. Couldn't find no comfort. Écoutez bien la musique, hein. Voilà. Alors et maintenant, place à Fame de David Bowie.
C'est la même musique, Fred.
Eh oui.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est exactement la même musique. Alors là, vous
qui
vous dites,
a pompé qui,
ça y est,
si j'ose dire.
Ça y est, encore un musicien blanc qui copie un musicien noir, comme c'est souvent arrivé aux États-Unis. Eh bien non.
C'est l'inverse.
Et c'est l'inverse pour une fois, parce que quand James Brown a découvert le morceau de David Bowie, il s'est dit, et là je vous jure que c'est vrai, mais ça sonne comme du James Brown ça. Allez hop, c'est à moi. je le prends.
Et il a donc copié. Ce James Brown.
Ouais. Ah ouais, mais non. Et il a donc copié sans vergogne le morceau de Bowie, qui lui a eu l'élégance de ne pas lui faire un procès. Bref, on pourrait dire que James Brown, le parrain de la soul, bah il était aussi respecté que Don Corleone.
Ah oui.
Et vous êtes notre parrain de la musique à nous. Merci Fred Goati pour ces révélations et pour cette analyse du tube inoubliable de James Brown. Encore quelques secondes du tube de Delgio James Brown. Oh, j'arrive plus à le dire tellement je suis excité. Envoyez-moi James Brown.
Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up.
Je vous imagine grouvant dans le studio toute seule.
Ah oui, carrément.
C'est à la fois beau, c'est vrai, c'est à la fois beau et pathétique.
Non, pas pathétique, pas du tout.
C'est magnifique.
Mais oui, merci Fred.
C'est magnifique. Voilà. Vous êtes magnifique. Merci Fred Goati.
Europe 1.
Et si le confinement était l'occasion d'apprendre ou de se remettre à la cuisine? Et si vous tiriez profit de la situation pour épater vos proches en leur montrant ce qu'on peut faire avec 3 cuillères à peau et un brin de créativité? Olivier Pouls, votre tuteur gastronomique, arrive pour Délices in Extremis, la recette qui a épaté même les plus grands chefs étoilés, comme dernièrement Michel Sarran.
Et puis on va tout simplement récupérer nos cuisses de canard, faire réduire encore un tout petit peu la sauce de manière à la corser, et puis il n'y a plus qu'à servir avec une délicieuse bière, et on a un pont entre la Belgique et Toulouse. Est-ce que vous achetez la recette?
Franchement, non.
Pure jalousie, Délices in Extremis arrive.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bon chéri, on y va là, on va être en retard.
Oui, deux secondes, j'efface cette toute petite tache du pare-brise de ma Sandero neuve.
Mais ça fait 100 minutes et y a rien du tout.
Oui, mais j'aimerais qu'elle reste parfaite.
Oui, mais là on va être vraiment très en retard.
C'est bon, j'arrive. Attends, juste cette dernière petite marque.
Depuis 15 ans, Dacia rend le plaisir du neuf accessible. Et en ce moment, profitez de Dacia Sandero à partir de 3€ par jour, soit 90€ par mois sans apport, avec 5 ans d'entretien offert. Exemple pour Sandero Access SCE 75, LLD 61 mois 60 000 km réservé aux particuliers du 1er au 31 mars, si accordé à Dacia.fr.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Le confinement continue, mais la résistance zygomatique s'organise. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 continuent de se défier au service de votre bonne humeur. Nous élirons bientôt le chroniqueur du jour. Mais l'équipe est sauvage, c'est aussi toujours un lien privilégié avec les plus grandes stars de notre époque. Durant ces deux heures, chaque après-midi, vous aurez appris à connaître Cadmerade, Jean-Louis Aubert, Sandrine Bonner. Hier encore, nous étions en ligne avec Thomas Dutronc. Même si bon, exceptionnellement, ce n'est pas nous qui avons découvert un invité, mais plutôt l'invité qui a découvert Eva Rock.
Il paraît qu'on t'appelle la soca. Alors, mais j'avoue, je sais pas ce que ça veut dire. Je connais la soca d'Aden.
Tu sais ce que c'est, la soca?
Ben non.
La soca, c'est une crêpe niçoise très brûlante. Enfin,
Ah ouais.
Vous n'avez pas le droit de faire ça.
C'est bien quand nos invités vous découvrent.
Mais non, c'est moche ce que vous venez de faire, le pauvre Thomas.
Découvrir les secrets d'Eva Rock, c'est certes exaltant, mais apprendre à connaître une vraie vedette l'est encore plus. C'est pourquoi avec Eva, on a eu envie de réécouter cet après-midi une comédienne qu'on adore. Isabelle Nanty était notre invitée le 8 janvier dernier. Vous, par exemple, Isabelle Nanty, vous êtes un exemple d'abnégation et de persévérance. Alors, quand on voit votre carrière aujourd'hui, on a du mal à imaginer que vous avez raté plusieurs fois le concours de l'entrée à la rue Blanche.
Ouais. J'ai raté tous les concours.
Mais vous vous êtes améliorée ou juste vous avez été mal jugée par des gens incompétents au moment où vous êtes présentée? Un peu des deux.
je pense que j'ai... Je sais pas. Je me suis améliorée, je ne sais même pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même bizarre, les concours pour un métier qui se fait sur la personne, en fait, sur la sensibilité. Moi, je suis contre les examens, par exemple. J'ai été prof dans une école et je refusais qu'il y ait des échéances où on les juge. Parce que vous travaillez avec des gens que vous aidez à se construire, en fait. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui se cherchent. Donc, on n'a pas à juger là où il en est de la recherche. Ça peut mettre 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe.
Alors aujourd'hui, vous avez basculé côté prof. On vous présente d'ailleurs souvent comme ça, comme une prof de théâtre émérite qui a formé les plus grands comédiens actuels. Mais vous-même, vous avez souffert longtemps d'un complexe d'illégitimité.
À cause de justement tous ces concours que je ratais.
À cause de vos débuts.
Ouais.
Et enfin, après, vous êtes devenue une comédienne émérite. Vous ne devriez plus du tout ressentir ça.
Ça, c'est très gentil de le dire, mais... De l'intérieur, on se vit pas forcément comme ça. Ça ne repose pas sur des choses, c'est pas une science exacte de savoir jouer. Moi, je ne sais toujours pas comment on fait, très sincèrement, je ne sais toujours pas comment on fait pour jouer. Je ne sais toujours pas comment font mes collègues, je les vois arriver, comment ils ont appris leur texte, là comment ils vont faire pour être dans telle émotion et tout ça. Je ne sais pas, c'est un mystère. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui m'intéresse en fait, de ne pas savoir?
C'est ce qui fait avancer.
J'ai peut-être peur du jour où je saurai.
Isabelle Nanty, qui, avouons-le, n'avait pas vibré comme ça depuis sa participation à Fort Boyard en 2001.
J'ai des asticots, c'est horrible! J'ai des asticots dans le soutif!
Vous aviez des asticots dans le soutif, bon ou mauvais souvenir, Fort Boyard, Isabelle Nanty?
Horrible!
Oh, ah, moi aussi, ouais. C'était affreux.
Ah ouais, moi je trouve que c'est une entreprise d'humiliation organisée au nom de la bien-pensance, c'est-à-dire d'association. Mais au fond, Léa Drucker, elle arrive, toute pomponnée, enfin, nickel, belle comme Léa Drucker, une minute après, elle est dans la boue. Et moi, j'avais des soutifs dans les asticots.
Ça s'en était. Ouais. Et la question que tous nos auditeurs se posent, les tuches.
Les frites.
Alors, ça revient?
Oui, je commence à tourner le 10 février.
Ah, donc là, le scénario est bouclé, le tournage va démarrer.
On est en train de préparer.
Et alors, vous avez lu le scénario, Isabelle, ou vous êtes allée?
Bien sûr.
Vous êtes allée les yeux fermés?
Non. J'y suis allée par obligation, mais si ça ne m'avait pas plu à la lecture, j'aurais dit non.
Alors, dans le 3, ils étaient à l'Élysée. Là, est-ce qu'on peut déjà dévoiler un peu ce qui va se passer?
C'est un film de Noël.
Ah, ben voilà. Déjà, on peut imaginer un petit peu, c'est un film
donc
de Noël.
Donc, vous imaginez la date de sortie?
J'imagine aussi la date de sortie, ce sera dans un peu moins d'un an, si je ne m'abuse.
Voilà.
Il y avait eu, on en avait parlé avec Jean-Paul Roux, pas une polémique, mais il y avait des gens qui disaient que les tuches, ça se moquait des gens de province et tout ça, parce que Jean-Paul Roux n'aimait pas cette critique-là. Est-ce que vous l'entendez? Vous pouvez comprendre que ça soit pas bien compris, parfois, ou...
Nous, en tout cas, on est de très bonne foi quand on le fait. C'est-à-dire que quand on joue cette famille, d'ailleurs, c'est un moment, c'est assez joyeux de se mettre dans cet état-là. On est comme des enfants. Et comme les enfants, on est enthousiastes, les tuches sont enthousiastes, gourmands, comment dire, s'ils aiment une couleur, ils l'aiment flashy, s'ils mettent des légumes, ils en mettent plein, et s'ils mangent des patates, et ben c'est des frites, du gratin, toutes les déclinaisons de la pomme de terre, comme les enfants, quoi. Et donc, nous, on se met dans cet état-là, donc il n'y a pas de méchanceté chez eux, il n'y a pas de... Donc on ne peut pas jouer ça avec mépris.
Impossible.
Donc, non.
Dans la série Bon ou mauvais souvenir, Isabelle, j'aimerais éclaircir un point avec vous concernant un de mes films cultes, Les Visiteurs.
Ouais. Alors, très bon souvenir.
Visiteurs 1, je précise. Ouais. Très bon souvenir pour vous.
Très bon.
Sur le tournage.
Oh, génial.
Alors, expliquez-moi. Comment se fait-il que Valérie Le Mercier ait raconté plusieurs années après qu'elle avait vécu un tournage difficile où elle se sentait mise à l'écart de la bande? Est-ce que vous avez souvenir de ça, de Valérie Le Mercier dînant seule le soir et pas avec le reste de l'équipe?
Alors bon, moi je rentrais à Paris le soir, donc je ne sais
pas
si elle
dit ça.
Je n'ai pas vu ça, mais je la crois si elle le dit. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai. Sur le plateau, je n'ai pas senti d'animosité ou de choses comme ça. En même temps, vous savez, j'ai tourné que 10 jours. Hein. Eux, ils ont tourné 8 semaines ou 9 semaines. Mais
donc vous êtes en mesure de réhabiliter mon rêve quelque part. Les Visiteurs, c'était aussi un tournage aussi rigolo que le film, quoi.
Bah moi je me suis beaucoup marrée.
Vous êtes marrée.
Ah ouais. C'est 10 jours en plein été, il faisait très très chaud et des rigolades, des fous rires à n'en plus finir. Et puis la découverte d'un metteur en scène qui est Jean-Marie Poiret, qui est un grand metteur en scène, quoi. C'est un, il vous met dans l'état de jouer. Toute l'énergie qui passe dans le film, c'est lui. Hein, c'est un.
Alors justement, est-ce que c'est une question qu'on se pose en tant que néophyte, quand on est une grande comédienne, est-ce qu'on se rend compte quand on participe à un film qui va devenir culte? On peut jamais savoir que ça va être culte, mais que ça va être quelque chose de spécial quand même. Est-ce que sur le tournage des Visiteurs, déjà, on imaginait le phénomène que ça deviendrait?
Non, on peut pas imaginer, mais je dois dire qu'à chaque fois... Le tournage d'Astérix, c'était dingue. J'ai tourné que 5 jours, hein, mais c'était dingue ce qui se ressentait. Le tournage d'Amélie Poulain, c'était dingue.
Ah, ça c'est vachement intéressant, parce que je crois qu'Amélie Poulain avait du mal à se monter avant que...
Oui, mais une atmosphère sur le tournage, on avait tous conscience de faire quand même, d'être au service d'un metteur en scène et d'un scénario qui était à part. Et un grand plaisir à le faire. Je crois quand même que le plaisir à faire les choses passe. Enfin, c'est une énergie qui passe dans la pellicule, à mon avis. Enfin, la pellicule.
Oh oui, on peut dire la pellicule.
Europe 1.
En ces temps incertains, les plus optimistes rêvent que l'épidémie soit l'occasion, une fois vaincue, d'un nouveau départ. Ils rêvent d'un monde plus juste, d'une société plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse aussi du monde animal. Un rêve assez éloigné de celui d'Olivier Pouls, notre cordon bleu.
Des arbres, vous imaginez, avec les côtes de porc qu'on irait cueillir comme ça, juste avant d'allumer le feu.
En attendant ce jour béni où les côtes de porc fleuriront sur les arbres, Olivier Pouls nous propose Délices in Extremis, la recette facile et goûteuse à réaliser en famille. Ce soir, ça sera juste après la chanson des jumelles, Les Demoiselles de Rochefort sur Europe 1.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes données le père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux autres des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol.
Qu'il est convenu d'appeler coup de foudre aux sauvages passions.
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre
dis-moi le cas.
Ça y est, je suis en retard.
Delphine.
Oui.
Tu vas chercher Boubou?
Oh, tu veux pas y aller?
Bah, j'y reste l'après-midi.
Oh, je peux pas sortir avec ça.
Oh, puis si.
Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il va encore celui-là?
Je ne sais pas, me voir.
Oh, bah, il attendra.
Tu rentres déjeuner?
Oui, mais pas avant une heure.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon poudrier?
Ah non, je vais.
Joyeux violoncelle, de la trompette ou du banjo, aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots, du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux.
Au revoir.
Au revoir.
La chanson des jumelles, c'était Les Demoiselles de Rochefort, inoubliable sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, confinement, épisode 5, entre dans sa dernière ligne droite. Après vos zygomatiques, vos neurones, on va maintenant s'attaquer à vos papilles. Et pour pas cher, car vu la situation économique du pays, vu qu'on a dans nos placards plus de barilla que de beluga, il est important de faire des économies. Or, pour faire des économies, nous avons un expert. On l'appelle la pince de Namur. Même en temps normal, le jour de la Saint-Valentin, sa radinerie avait fait sursauter Bérangère Krief.
Pour Bérangère, je lui proposerais bien de partager un chirachi.
Ah !
Facile, rapide et pas trop cher.
Pas trop cher, classe vis-à-vis de Bérangère. C'est-à-dire que vous bien la pécho, mais faut pas que ça vous coûte trop cher non plus, quoi. Bonjour Olivier Pouls.
Non mais vous savez Mathieu que la grande cuisine n'est pas forcément onéreuse. Je sais que pour vous ouvrir une boîte de caviar c'est montrer le respect et de l'amour. Mais non, la créativité
qui est
Mathieu.
Qui croyait prendre
mais
bien
oui.
Joué mon petit Pouls. Je vous taquine évidemment. Le confinement Olivier c'est au moins l'occasion de prendre le temps de cuisiner. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir?
Eh bien, plus que cuisiner, mon cher Mathieu, ma chère Eva, mes amis, je vous invite à l'apéro. Vous savez que se développe depuis le début de la semaine un concept que je trouve génial et que j'ai expérimenté pas plus tard qu'hier soir, l'apéro virtuel.
Ah, vous l'avez fait avec l'application, là?
Eh ben, vous savez quoi? Après l'émission, puisque vous êtes déjà chez vous, on va gagner du temps. Vous allez vous connecter vers 18h30 et je vous propose qu'on se retrouve. Alors, moi, depuis la Bourgogne, Eva, depuis son 300 mètres carrés haussmannien et vous, chez vous. Et on se fait un petit apéro, tous ensemble, tous les trois.
Oh, c'est pas mal.
Et alors,
comme
attendez,
idée.
Il faut donner le nom de l'application.
Alors, moi, je le fais simplement avec FaceTime et ça marche extrêmement bien.
Ah bah voilà, vous parfait.
Mais oui, et voilà, les exactement, il y en a d'autres, je pense. Mais avec FaceTime, ça marche très bien. Et donc, moi, je vous dis ce que je vais préparer pour mon petit apéro. Vous savez, des espèces de petites sauces, des petits dips, comme on appelle ça maintenant, des petites choses à tartiner ou dans lesquelles on va venir tremper, alors soit des petits bâtonnets de légumes, des petits croutons de pain ou pourquoi pas des feuilles d'endives. Tiens, ça marche très bien aussi. J'en propose 2-3. Alors tout à l'heure, je vais faire un petit mélange purée de pois chiches. Donc on cuit des pois chiches tout à fait normalement et puis on les réduit en purée avec de l'huile d'olive, avec un jus de citron, avec quelques épices qu'on a sous la main. Et ça fait une espèce de houmous assez agréable et vraiment délicieux. On peut se faire une petite tapenade avec des olives, avec quelques anchois, des câpres, un petit peu de parmesan. On mixe tout ça et on peut tartiner également sur des petits morceau de pain, c'est délicieux. Et puis une autre version que j'aime bien, c'est, si vous avez ça à la maison évidemment, un peu de mozzarella, du basilic, des pignons de pin, de l'huile d'olive, et là aussi une pointe de parmesan ou de coulis de tomate, et là vous avez quelque chose d'un peu estival, c'est vrai qu'il fait beau en plus, et qui est vraiment délicieux à déguster comme ça. Et puis il y a évidemment l'incontournable fromage frais, avec une boîte de sardines ou une boîte de thon, et une petite pointe de moutarde, et vous pouvez jouer comme ça, à faire des petits dips originaux pour faire des apéros conviviaux entre amis.
Ça y est, moi j'ai déjà envie de boire
et
de manger.
Je m'occupe des bouteilles aussi.
Ah bah oui, non, mais vous êtes gentil. Merci beaucoup. Elles sont pas dans mon frigo, vos bouteilles.
On ne pourra pas nous en profiter, Olivier. Donc vous êtes bien gentil, mais nous on sera à la cristalline pendant que vous ouvrirez les plus beaux flacons de notre production.
Oui, mais virtuellement, je vous ferai participer et je vous les décrirai.
Oh bah tiens.
Oui, bon bah ça va. Bon, et ben, vous savez quoi Olivier, on vous a assez entendu pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui comme moi n'ont pas fait de réserve de pinard et qui se retrouvent comme ça, j'ai envie de dire à Walpé ce soir à l'heure de l'apéro, eh bien vraiment, je ne vous dis pas merci. Bah,
votre
Olivier,
manque de prévoyance m'épate là mon cher Mathieu, là je suis abasourdi.
Je savais que ça me perdrait. Olivier Pouls qu'on retrouve samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
C'était Délices in Extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette avec les fromages Hermitage, du goût, du partage.
Une première semaine de confinement s'achève pour l'équipe Sauvage. 2 heures durant lesquelles, chaque jour, nos journalistes auront porté haut les valeurs qui doivent nous animer en ces temps difficiles. Entraide, bienveillance et tolérance sont ces principes qui réunissent tous les journalistes de l'émission. Bon, sauf peut-être Ève Roger, qui a la délation facile.
Alors, je suis chez moi, au 12e étage, où je vois 3 personnes en bas qui font de la trottinette. Je ne sais pas s'ils ont le droit de le faire.
Mais sinon, globalement, on est plutôt tous d'accord. Durant cette période de confinement, on doit tous se soutenir les uns les autres, sauf au moment de désigner le chroniqueur du jour. C'est l'heure du qui tout double, les amis. Nos journalistes ont 10 secondes pour nous expliquer pourquoi leur chronique était la meilleure. Fred Goati, pourquoi devrions-nous voter pour vous ce soir?
Bah, non seulement je vous ai donné envie de danser, je crois, hein, mais il me semble que je vous ai appris 2 ou 3 choses que vous ne saviez pas. Oui. Alors, get up, get on up, votez pour moi.
Get up pour Fred Goetti. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous ce soir?
Je vous ai quand même résumé 300 ans d'enquête historique en 2 minutes 30, c'est pas mal. Et puis Mathieu, je vous le dis comme ça en passant, mais le livre, je vous l'ai offert, il coûte 20 euros. Donc peut-être vous pouvez faire un effort pour les points quand même, quoi. C'est pas grand-chose.
Cette mesquinerie
va vous coûter votre point qui vous était quasiment acquis, Nicolas. Quelle erreur de votre part, erreur de dernière minute. Arthur Elmbaché, pourquoi devrions-nous voter pour vous ce soir ?
Par amour de la nature, je dirais, parce que je reviendrai vers vous quand les 4 œufs auront éclos, et là, tout le monde va chialer.
Ça, c'est efficace. Farah Kasri, pourquoi voter pour vous ce soir ?
Eh bien, tout simplement parce que je vous ai donné une source d'inspiration. Les animaux sont capables de s'entraider. Ben, nous aussi, il va falloir juste faire un petit effort. Et ce soir, n'oubliez pas, à 20h, vous applaudissez le personnel soignant, vous pensez aussi aux caissiers pensez aussi aux éboueurs, parce que grâce à eux, on va peut-être survivre.
Oui. Et on applaudit aussi les perroquets qui sont visiblement capables de beaucoup d'altruisme, que vous nous l'expliquiez. Alors, moi, je vais donner mon point aujourd'hui. Alors, normalement, je l'attribue à la meilleure chronique, mais c'est pas seulement une question de meilleure chronique, cette émission. Parce qu'il peut y avoir une chronique nulle, mais tellement bien racontée qu'elle mérite le point. Oh, c'est donc Arthur Elmbaché qui l'emporte, qui porte bon point, en tout cas. C'était vraiment, parce que réussir à nous fasciner avec l'histoire d'une webcam qui filme toute la journée une cigogne, et ses petits cigognons, je sais pas comment on dit, on s'en fout. En tout cas, c'était une belle histoire. Bravo Arthur. Eva Rock, vous votez désormais vous aussi à la place de l'invité. C'est l'innovation cette semaine en temps de confinement. À qui allez-vous attribuer votre point ?
Il a encore réussi à m'apprendre un truc. Je pensais tout connaître de James Bond, mais pas du tout. Fred Goati, je vous donne mon point, évidemment. Puis Sex Machine, quoi, je suis obligée.
C'est vrai que c'était fort. C'était fort. Mais alors, c'est dommage pour Nicolas Carreau et Farah Kasri, parce que c'est des bons sujets aussi.
Mais
c'est tendu
hyper
aujourd'hui.
Dur, hein, c'est hyper
dur. Que disent nos auditeurs ?
Eh ben, écoutez, finalement, ils ont voté pour Nicolas Carreau, pour le masque de fer. Qui remporte avec les deux
c'est
points.
C'est Nico qui remporte l'équipée sauvage. 138e journée de l'équipée sauvage, totalement confinée, mais toujours aussi barrée. Vous avez pu le vérifier. Bon courage à tous, les amis. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Farah Kasri, Arthur Elmbaché, Nicolas Carreau, Fred Goati, Olivier Pouls, Romain Causeur en régie, Amanda Lear qui était notre formidable invité et qui à l'heure où je vous parle a pris son 4x4 pour évidemment
écraser les cyclistes.
Non Amanda, faire des courses de première nécessité, bien sûr, c'est ça que vous avez écrit sur la petite feuille. L'équipée sauvage revient demain 16h, tout de suite restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipée sauvage. Merci aussi. Merci pour votre vraie bonne humeur essentielle en ce moment qui arrive vraiment jusqu'à nous, hein, dans nos salons ou ailleurs. Demain dès 16h, le meilleur de la semaine. On vous retrouve lundi avec grand plaisir Mathieu. Salut, bon week-end.